Ah mais c'est fou, on est en train de faire des analogies philosophiques avec Pokémon, j'adore ce moment!
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best, down, 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 down. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du meilleur podcast, le podcast où on parle des meilleures choses avec les meilleurs invités.
Il y avait pas de générique en tout cas dans les meilleurs trucs.
Oui. On a mis le budget sur les sièges. C'était soit on avait un générique, on enregistrait debout.
Le budget sur les sièges et l'énergie. Il y a vraiment beaucoup d'énergie dès le début, quoi.
On a choisi. On avait des pôles de dépenses à prioriser.
Ah ouais, là, c'est très violent.
Ah là là, cette émission commence bien, Tom.
Sur les chapeaux de rouge,
sur les chapeaux de rouge.
Mais qui es-tu ?
Bah, je suis Cyrus. Ah. Je suis Cyrus. Et toi, du coup ?
Eh ben moi, je m'appelle Tom et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Meilleur Podcast. C'est nos refs, essentiellement, on a tout misé sur ça. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Meilleur Podcast. Aujourd'hui, on va s'évader un petit peu, on va quitter ce quotidien triste et monotone pour se plonger dans les univers
morne.
De fiction.
Morne, j'allais dire morne.
Hein. C'est optimiste, c'est bien. Et on va essayer de discuter ensemble du meilleur univers de fiction dans lequel vivre. Et pour parler de ça, Cyrus, je vais reprendre une petite expression qui t'est chère. On est bien entouré.
On est bien entouré, mon bon Tom.
On reçoit qui pour en parler aujourd'hui ?
On reçoit en face de moi. On l'entend. On entend ce rire. C'est Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Fred, merci beaucoup d'être là.
Merci à vous de m'avoir invité.
Ça nous fait extrêmement plaisir et ça me fait personnellement extrêmement plaisir parce que c'est un peu grâce à le Blockbuster, ton émission actuelle sur France Inter pour la troisième saison.
C'est ça.
Qui m'a un petit peu donné envie de me mettre aussi à faire du podcast et l'émission. Donc voilà, je suis personnellement ravi de t'avoir à côté.
J'ai donné cette envie à plein de gens parce qu'ils se sont dit si lui, ils l'ont autorisé à faire ça, il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas. Et effectivement, j'ai désinhibé plein de gens.
Créateur de vocation, c'est ton titre, hein, je
voilà,
crois.
Mais
c'est vrai que quand j'étais invité à ton émission, parce que j'étais invité sur Lost, Tony m'a fait « Oh, énorme, machin, vas-y, invite-le dans le podcast et tout !»
Mais il parlait vraiment comme Christian Clavier à ce moment-là ou rien à voir ?
Mais attends, cette quatrième personne
qui vient d'apparaître,
soudainement,
j'ai
avec
popé.
Une très bonne vanne. tu la présentes du coup parce,
bah
que
bah...
parce que du coup, moi j'ai présenté Fred.
C'est la parité.
Yes.
Du coup, on est sur ça.
Yes.
On reçoit pour la deuxième fois dans ce podcast Dedo. Salut Dedo.
Enchanté. Ce lancement Salut Dedo est tellement années 80 que,
ouais.
qu'on est vraiment.
Salut
dans,
Dedo.
On est
sur
très
la thématique. Agréable. Hein.
Ouais. Tu serais à Séverine Ferrer que ça serait la même chose pour moi là actuellement.
Merci Dedo d'être là.
Merci à toi de m'avoir invité. C'est super.
C'est que moi
venu,
d'ailleurs.
Ouais.
Merci,
merci à toi et Cyrus aussi. Ça va. On sait que vous faites tout à deux. On n'a pas besoin de. Le couple, c'est vous. Voilà, vous êtes une entité.
C'est vrai, Tom. Tom, d'ailleurs, cette semaine, je t'ai dit, ça fait 8 ans qu'on n'est pas sur Facebook.
Ça vaut tous les anniversaires
voilà.
du monde. Alors,
voilà.
Coup, a priori, je ne sais que dire à
voilà,
ça.
Voilà, voilà. Non, c'était juste une petite info. T'as d'autres infos à nous donner, Tom ? T'as pas un petit édito ? T'as pas un éditum ?
Que les choses soient claires, kiffer des trucs, c'est important. Plonger sans retenue dans des univers imaginaires, s'identifier à des personnages de fiction ou suivre les valeurs de nos œuvres préférées, ça nous aide à nous construire. Mais attention quand même à ne pas perdre tout discernement, hein, parce qu'être trop fan de quelque chose, bah, ça nous pousse à faire de belles conneries. Je pense par exemple à tous les futurs parents qui, devant la saison 7 de Game of Thrones, se sont dit que ça serait une bonne idée d'appeler leur enfant Khaleesi. On peut aussi parler du cas Victoria McLean, qui détient la plus grosse collection en mode d'objets issus de l'univers Harry Potter, 117 000 euros de goodies. Est-ce que vous imaginez le salaire qu'on doit gagner pour dépenser autant d'argent en porte-clés d'Obi ? Moi, si j'étais riche, c'est sûr, je dépenserais vachement mieux mon argent. Bah déjà, je rachèterais tous les services météo du monde pour renommer tous les ouragans avec des prénoms de gens que je n'aime pas. Et ensuite, je rachèterais toutes les bandes des Teletubbies pour les brûler. Ah non, pas du tout, parce que comme l'a dit Bret Easton Ellis, je trouve que les Teletubbies présentent, je cite, « l'image lénifiante d'un monde aseptisé et planifié, déconnecté de la réalité, né de l'hypocrisie des adultes et conforté par elle », mais juste pour montrer tout mon soutien à Jessica Smith. Jessica Smith, c'est elle le bébé qui jouait le soleil dans les Teletubbies. Est-ce que vous imaginez le traumatisme qu'elle a dû endurer quand tout s'est arrêté ? T'as été soleil. Tu peux faire quoi de mieux après ça ? Et puis en plus, je pense que la catégorie astre soit pas hyper demandée à Pôle emploi. Bref, d'ailleurs, en parlant des Teletubbies, qui au passage ne veulent pas du tout dire les petites tubes de la télé, il y a quand même un énorme scandale. Il y a un épisode qui était interdit dans plusieurs pays car il terrorisait les enfants. Je pense que c'est extrêmement scandaleux, hein, parce que pour les 456 autres épisodes qui ont traumatisé les adultes, on n'a rien fait du tout. Enfin bon, tout ça, ce n'est peut-être que mon avis sur les univers de fiction, et du coup, je voulais bien avoir le vote, chers invités. Quelle est la première œuvre de fiction qui vous a mis une grosse claque, Fred ?
La première œuvre de, de fiction, pas de friction.
Ouais, c'est autre chose encore, ça.
Parce que la première œuvre de friction, c'était la séparation de mes parents. mais vous avez vu comment ça rebond, ouais. Un peu incroyable.
Jacques Pradel est dans quoi, là, je pense qu'il va débouler un moment.
I'm a natural, I'm a natural. Première œuvre de fiction, alors en film, le premier film qui m'a vraiment marqué, c'est Le Retour du Jedi. Parce que ma mère m'a élevé toute seule et elle adore le cinéma. Et elle voulait voir ce film. Et elle m'a emmené, donc je devais avoir 7-8 ans. Et tu te retrouves dans une salle, c'est le premier film que tu vois. Et t'as cette entrée sur Tatooine avec deux droïdes, je comprends rien du tout. Je vois deux robots, je dis qu'est-ce que c'est ? Et tout d'un coup, tu tombes devant Jabba le Hutt avec toute une galerie de personnages. Il y a la princesse Leia qui est attachée avec une chaîne. Et moi, je flippe ma race en disant mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? En plus, il te parle de trucs. Je me dis, bon, pour moi, c'était le premier épisode.
Ouais, tu vois pas le premier.
Mais là, tu débarques et ils viennent récupérer Han Solo. J'étais complètement perdu. Et ça a été ma première claque visuelle, enfin, à tous les niveaux. Luke Skywalker, pour moi, c'est qui arrive en robe de bure, qui apparaît comme ça en hologramme et qui dit à Jabba, je vous offre ces deux droïdes. Et je dis, waouh, qu'est-ce que c'est, Vraiment, ça a été un truc monumental. Et je sais pas si c'est la même année en plus, je crois que c'est ça. Elle m'a aussi emmené voir Star Trek 2, La Colère de Khan, avec Ricardo Montalban. Et il y a une scène où il met des petits asticots dans les oreilles des membres de l'Enterprise pour les posséder.
Sympa.
Et ça m'a tellement terrifié que depuis j'ai une phobie terrible des asticots, c'est-à-dire que je ne supporte pas dès que je vois un verre de terre. Je suis hyper angoissé à cause de ce film parce que j'ai vu ça trop tôt et ma mère s'est bien rendu compte que je devenais un petit peu bizarre à côté d'elle et elle a géré comme elle a tout géré, c'est-à-dire oh bah ça il s'en remettra. Voilà c'est la meilleure imitation que je puisse faire.
elle se reconnaîtra.
Les gens qui la connaissent disent oh bah évidemment c'est Evelyne. C'est Evelyne.
Donc grosse année déterminante quand même au cinéma avec deux expériences assez fortes quoi finalement.
Voilà.
Mais l'espace, ça a été clairement toi ton premier milieu de fiction, ça a été l'espace.
Oui l'espace, ouais.
En tout cas les extraterrestres.
Et les asticots.
Mais du coup t'as eu quand même une super approche de Luke Skywalker. Si t'es arrivé sur cet épisode là tu t'es dit le mec est trop badass versus ceux qui l'ont eu peut-être au premier épisode où il dégage un truc un peu moins fort.
Non mais de toute façon je n'ai jamais fait partie de cette cohorte de gens qui critiquent Mark Hamill et Luke Skywalker parce que je trouve que pour moi c'est le poissard ultime mais tout film confondu, c'est-à-dire que il a abandonné par ses parents sa sœur, elle est au moins elle grandit dans l'opulence etc, il y a pas de problème. Lui il est envoyé sur Tatooine, une planète tout le monde te la vend comme une planète super pourrave, il est élevé par son oncle et sa tante. Il aide, tu le vois, il est pas méchant, il est même pas en rébellion. Il dit j'aimerais bien un petit peu piloter avec mes copains. Il dit non, il y a des récoltes, tu vas aller m'aider pour là. Mais quand même, t'avais dit oncle Owen. Ah ta gueule. Et donc lui, il va bouder un tout petit peu pour aller nettoyer le droïde, ce que son oncle lui a dit. Il se rebelle jamais. Et ensuite, il va apporter le droïde comme ça parce qu'il voit la princesse Leia à Obi-Wan Kenobi. Il revient, hop, la famille cramée. Et ensuite, il va dans l'espace, il rencontre pour la première fois de sa vie une nana. Il se dit ah, elle est jolie. Elle est mignonne. Je vais faire un bisou. On est quand même dans un univers où on visite des galaxies.
Il y a quand même milliards de gens.
Les probabilités, tu te dis comment ça peut arriver. C'est Star Wars. Ils ont pas fait ça dans le Berry, tu vois. Et ben le mec il tombe sur sa sœur. Et tu te dis c'est grandiose. Il y a quelque chose. Je me dis c'est un loser magnifique. Et en plus il y a même aussi une sorte de métaphore de la masturbation parce que le mec est tout seul. Il y a ce sabre laser. Tu vois rétractile. Et tout d'un coup, t'as cette figure paternelle qui arrive, Dark Vador, qui lui coupe la main. Et après, retour du Jedi, on le voit, tu vois, ça y est, il est devenu homme d'église, homme de foi. J'ai arrêté de me tirer sur la nouille.
J'avais jamais très vu cette analogie. Elle est incroyable.
Mais regarde, ouais. à la fin de l'épisode 4, Guerre des Étoiles, il est dans un vaisseau qui s'appelle une aile X. Et le but du jeu, c'est d'aller envoyer deux missiles dans un truc tout rond qui ressemble énormément à une ovule. Si ça, c'est pas un mec qui désespérément veut dire oh, j'aimerais quand même bien niquer. Et en fait, hop, le père arrive, lui coupe la main, il devient homme d'église et tu rentres dans les ordres. C'est profondément normatif.
Tu veux dire que tout l'univers de Star Wars, c'est juste une allégorie.
Un gangbang.
De rentrer dans les ordres.
Exactement.
Oh la vache.
Exactement.
Donc on est endoctriné sans le savoir.
Exactement.
Ils sont forts. Ils sont tellement forts. Ils nous ont niqué même dans Star Wars. Ils sont forts.
Mais oui.
Je vais voir le film différemment maintenant. Et je sais pas si je suis content du coup. C'est une incroyable analogie. Rien que pour ça, je suis content d'être là.
Ouais.
Au départ, les deux qui font des jeux de mots, ça me saoulait. Mais ça y est, ça va mieux là. Ça va beaucoup mieux.
La vie prend un nouveau sens.
Ah, je suis content.
C'est quoi, Dedo, pour toi, la première grosse claque que t'as eue et dont tu te souviens d'un univers de fiction qui s'est offert à toi?
Alors, la première grosse claque, est-ce qu'il y a vraiment... Moi, je peux te dire, par contre, quel a été mon premier souvenir d'univers de fiction,
s'il te plaît,
au cinéma. Figure-toi que c'est Merlin l'Enchanteur de Walt Disney.
Ok.
Donc, quelque part, je me demande à quel point ça n'a pas défini, justement, cette envie pour moi d'aller vers des univers qui sont... fantastique, en tout cas en dehors d'un certain réel, parce que pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est de mon point de vue en tout cas, et ça l'est toujours, le meilleur Walt Disney, parce que justement ça parle clairement de magie. On est dans quelque chose où on voit pour la première fois un affrontement totalement magique entre Merlin l'Enchanteur et Madame Mime, qui est vraiment basé sur des transformations d'animaux, de la surenchère, de qui va aller le plus loin dans la grosse taille.
Et à la fin, le dragon.
Et à la fin, il y a du dragon. On avait dit pas les dragons. Il fait quand même un dragon.
J'ai pas vu ça, moi.
T'as jamais vu Merlin l'Enchanteur?
Ah, je me suis fait spoiler de ouf là.
Oh bah mec,
allez, super,
on
génial.
On va pas spoiler la vie.
Voilà. Là, c'était il y a 50 piges là, vraiment, oui, c'est trop tard.
C'est un effort.
Et surtout, cette feinte là incroyable de ok, tu fais les dragons, et ben moi je vais faire un microbe.
Yes.
Donc, comme quoi l'infiniment petit peut parfois faire du mal à l'infiniment grand. Et j'ai pas la même analogie du coup.
Non.
Je cherche une analogie pour entrer dans les ordres.
C'est des témoins de Jéhovah, Merlin l'Enchanteur, où il développe.
Mais tu crois pas si bien dire, parce que la baguette de Merlin.
Très bien. Quand il y a le coyote qui est dessus partout, clairement, c'est juste quelqu'un qui essaye de se défaire de toute cette chape de plomb qui est tenue. Ouais, non, c'est génial. Et donc ça, c'est mon premier souvenir. C'est même d'ailleurs, je crois, sans me tromper, mon premier souvenir de cinéma en salle. Okay. Parce que j'avais vu E.T. aussi, très très petit, mais c'est arrivé après. Et c'est cohérent d'ailleurs avec ce que j'avais énoncé dans l'intitulé total. L'intitulé total que j'avais donné dans mon univers de fiction, que je ne donne pas tout de suite parce que peut-être qu'il faut attendre.
Un peu de suspense.
Exactement.
Cyrus,
ouais.
C'est quoi pour toi cette première claque de fiction que tu as reçue, dont tu te souviens, où tu t'es dit, ok, cet univers-là, il est
l'insoutenable fonce. Légèreté de l'être.
Bleu de Zulawski.
j'ai eu des claques pareil de certains films, etc. Mais pour moi, l'univers, si je dois vraiment répondre à cette question, l'univers, c'est vraiment Star Wars, je pense. C'est et moi, je l'ai découvert
Au catéchisme.
Comme beaucoup de gens de ma génération, je l'ai découvert avec le premier épisode
La menace fantôme.
Voilà, La menace fantôme.
99.
Exactement. Que moi, j'avais kiffé. Et que je kiffe toujours. Tout le monde le décrit, celui-là. Mais genre...
Non, mais il y a des trucs à rattraper dedans.
Ouais.
Bah oui. Darth Maul, il est énorme.
Pour moi, c'est mon vilain préféré Star Wars.
Avec la BO de John Williams, Duel of Fate.
Ce moment est incroyable en termes de score. C'est vrai qu'après, il y a quand même une légère frustration dans ce combat qui est annoncé comme mythique par tous les atours de la cinématographie et qui au final se conclut quand même assez rapidement.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment le Deus Ex Machina scénaristique de George Lucas, que Darth Maul, il maîtrise, il gère deux Jedi, mais genre, je suis même pas, quoi. Pour moi, j'appelle ça un mardi. c'est vraiment ça, tu vois, il y a Qui-Gon et il y a Obi-Wan. Obi-Wan, il assure un peu plus que Qui-Gon.
Ah bah oui.
Et du coup, tu te dis... au niveau du casting, l'un est maître, l'autre Padawan, là vous avez un peu merdé parce qu'il a l'air quand même d'avoir un niveau vraiment supérieur à Qui-Gon. Et là où ça devient fou, c'est que tout d'un coup, alors qu'il est en position de supériorité, il regarde Obi-Wan se démerder accroché à un truc comme ça avec le sabre laser et dit bon, on disait que là logiquement c'était à ton tour de me tuer. Et il y a ce geste improbable qui ne fonctionne que dans l'esprit de Lucas où on voit Obi-Wan qui fait un salto au-dessus de Darth Maul. Darth Maul se retournait genre oh, les Jedi font des saltos.
C'est ça, ils font de la gymnastique aussi.
Et il regarde genre oh. Et seulement après, il le sabre en deux. Et là tu te dis facile.
Alors moi ça, alors à mon âge, ça a marché.
Et parce que toi-même t'étais époustouflé par quelqu'un qui faisait un stalo. Tu disais il a fait un salto. C'est incroyable. Tu t'en foutais des mecs qui se battaient à l'épée. Tu dis mais là il a juste fait un flip-flap, c'est fou déjà.
Bah non, mais j'avoue, ça m'a... Moi j'ai kiffé. Moi je... Et puis Dark Moon j'ai kiffé.
Et les Pod Racers.
Les Pod Racers j'ai kiffé.
C'est cool.
Et puis non mais même
Jar Jar Binks, on en parle souvent.
Et puis non mais ce qui était cool, c'est le côté je me souviens, je matais ça avec un pote à l'époque. Et genre on était vraiment tous les deux.
Tu lui passes une dédicace?
Ouais, ça s'appelle Jonathan. Et non, mais voilà, en fait, on était tous les deux un peu les deux geeks de l'école. En fait, il a rejoint l'école, c'était une école primaire, il nous a rejoint plus tard, tu vois. Et donc, moi, j'étais le seul geek avant qu'il arrive. Et du coup, je me sentais vraiment seul, tu vois. Tout le monde jouait au foot et tout. Et moi, j'étais là, je me faisais chier, tu vois. Et donc, lui, il est arrivé, et c'est lui qui m'a fait découvrir Star Wars et tous les univers de fiction dont on va parler aujourd'hui. C'est lui qui nous a fait découvrir.
Tu vois. Tu jouais pas aux cartes Magic encore à l'époque ?
Non, c'est arrivé plus tard.
Tu viens, tu m'avais appris. On en a pas parlé de ça, c'est marrant, des cartes Magic. Tu sais, tu m'as appris à jouer et je t'ai éclaté. C'était hyper juste un moyen comme ça,
j'ai oublié ça. Arrête, c'était deux decks qu'on a acheté vite fait.
Ça arrive souvent, hein, c'est les Anglais qui ont créé le football, ils ont qu'une seule Coupe du Monde.
C'est vrai, et encore, ils sont allés la chercher limite, limite. Hein.
Ah, on va parler de 66 et tout ça, t'es sûr ?
Ah, surtout, on va parler de foot.
Ah, voilà, et voilà. Écoute, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir parler de n'importe quelle thématique et d'essayer d'intéresser les gens.
Exactement. Pardon, Cyrus, désolé.
Non, pas de soucis. Mais donc, en fait, c'était un peu un échappatoire à l'époque, tu vois. Ce truc de Star Wars, machin et tout, on kiffait grave, on en parlait tout le temps, machin et tout. Et ce qui était intéressant, c'est que ce mec-là, il m'a aussi montré tout ce qui est l'art, je sais pas, tout ce qui est asiatique, donc inspiration japonaise et chinoise, sur que ce soit les samouraïs ou le kung-fu, le ninjutsu, ce genre de choses. Tu vois, on était à l'aïkido ensemble. Et en fait, ce que je kiffais dans Star Wars, c'est que ça transpirait aussi un peu tout ce côté samouraï, tout ce côté kung-fu, avec la sagesse, la maîtrise de soi. Okay. Et vraiment le côté initiatique. Et donc Star Wars, c'était pas juste des vaisseaux, c'était des vaisseaux et en même temps une sagesse et un respect, etc. Et genre,
le code des Jedi, quoi.
Ouais. Et ça m'a mis une claque.
Après, ça vient déjà aussi quelque part de Star Wars, de même avéré de la part de George Lucas, et déjà inspiré de la forteresse cachée de Kurosawa, où il y avait déjà donc des codes de samouraï. Donc c'est déjà une transposition de ces codes-là quelque part.
Et même le masque de Dark Vador, d'ailleurs, il est d'inspiration. C'est un masque, c'est un home de guerrier samouraï.
Non, je savais pas du tout. Mais ça me fait penser qu'ils ont sorti une série de figurines, là. Je sais pas si vous avez vu.
Ah oui, les Star Wars, justement, un peu samouraï. Oui, j'ai
exactement,
vu ça.
Exactement, ouais. C'est une fusion entre Star Wars et.
Mais de toute façon, c'est devenu une discipline. C'est devenu une vraie discipline sportive. Ouais, ce sabre Jedi.
Avec une fédération.
Ouais, une fédération.
Exactement, on en a fait, Tom, d'ailleurs.
De l'initiation, effectivement. Ouais,
Nice.
Et c'est hyper technique.
Ouais, c'est hyper technique. Mais d'ailleurs, j'ai vu qu'en fait, il faut que tu fasses un mouvement sur le côté. C'est pas du tout radiophonique, non. Mais il faut que tu fasses un mouvement entre
imaginez
chaque...
un mouvement rotatif de poignet, là, actuellement.
Voilà, entre chaque frappe pour garder l'esprit Star Wars où ils font quand même,
oui,
pour
que
ça reste joli.
Un petit
quoi.
Peu que ça reste du style.
Mais voilà. Il faut que tu fasses le bruit avec la bouche aussi.
Un peu plus de temps.
Vaoum.
Ah, vaoum.
Vaoum.
C'est le double sabre.
C'est un sabre laser du Pas-de-Calais. Donc,
mais donc, la claque, c'était ça. Et la tienne, Tom, c'est quoi?
Alors la claque, je pense qu'effectivement l'univers dans lequel je me suis projeté et qui m'a marqué très vite, c'est un Disney aussi que j'ai regardé très tôt et que j'ai énormément regardé, c'est Mary Poppins.
Ah.
Et monsieur, ça sert un peu. Il a sorti un vieux des cartons.
Mais déjà dans le mélange des genres, c'est intéressant.
Ouais, voilà, c'est là où c'était assez fort. Et bizarrement, il est aussi lié à Roger Rabbit, que je aussi regardais dans la même période, qui joue sur cette dualité de mélange d'un univers monde réel et d'un univers de cartoon. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai beaucoup vu étant petit et dans lequel je me projetais beaucoup et qui était assez onirique et qui du coup créait une porte ouverte entre notre monde et celui de la fiction. Pour ceux qui n'ont pas vu Mary Poppins, du coup, c'est l'histoire d'une gardienne d'enfants qui vient dans le Londres post-industriel, peut-être industriel, ça doit être dans les années 30-40.
Oui, c'est même la grande crise industrielle
à
Londres,
tout ça qui est mis en...
au début du 19e.
C'est possible.
Oui.
On recheckera ça bien, on mettra tous les liens dans la description, fact-checké comme d'habitude à chaque fois.
Et du coup, c'était du 20e.
Début 20e.
Et comme d'habitude, tout ce qu'on dit là, c'est une conversation entre potes, etc. Il n'y a rien qui est fact-checké, machin. On préfère le dire aussi. Voilà. Prenez pas tout pour argent comptant.
Mary Poppins, ouais, c'était assez déroutant quand t'es enfant parce que t'as une porte entre la fiction et la réalité qui est très présente et tu te poses des questions. Quoi. Tu te dis, ça peut être réel et c'était assez agréable de se projeter dedans et de se dire que c'était potentiellement accessible.
Mais moi, j'ai une question, Tom.
Dis-moi.
Parce que du coup, en t'entendant, tu vois, genre moi j'ai vu aussi Mary Poppins et pour moi, c'est pas je le considère pas comme un univers de fiction parce que pour moi, c'est genre un personnage qui arrive avec ça, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui définit un univers de fiction? Comment on peut le définir, tu vois?
En tout cas, il y a des personnages de dessin animé à un moment qui déboulent. Donc, pour toi, c'est pas un univers de fiction, c'est qu'il faut que tu te calmes sur les produits toxiques.
Il y a des pingouins qui font serveur,
Il y a un moment dans le film.
C'est un indicateur, quand même.
Ils vont dans le parc et il y a Bert, qui est un des personnages principaux, qui dessine à la craie des tableaux sur le sol. Et en fait, il y a un moment où, avec les enfants, elle saute dans un tableau et elle se retrouve dans un univers de fiction animé. Et là, il y a la course de chevaux, il y a les pingouins, etc.
Ça, apparemment, pour Cyrus, c'est le quotidien. bien. Hein, je comprends du coup sa question.
Pourquoi là,
oui, bah, comme un matin, quoi. Donc,
dans le 14e, il y a la même chose, je veux dire. C'est quoi la,
non, mais tu vois, genre,
la différence.
Par exemple, Spider-Man, je me suis posé la question en réfléchissant à l'émission. Et tu vois, Spider-Man, pour moi, c'est un univers de fiction seulement parce que il y a plein de vilains, en fait. S'il y avait que Spider-Man, pour moi, c'est pas un univers de fiction.
Comment ça? Tu veux dire qu'à partir du moment qu'il y a un mec qui vole dans les airs et qui a une force surhumaine, c'est pas suffisamment fictionnel?
Pour moi, c'est une fiction, mais pour moi, ça n'a pas un univers. Le côté univers de fiction, pour moi, c'est pas assez fort.
Ah ouais?
Bah si, attends, parce qu'il n'y a pas que Spider-Man. T'as les Vengeurs, t'as les 4 Fantastiques, t'as les X-Men. Moi, je me suis posé. Enfin, on n'est pas encore là-dedans, mais moi, je me suis posé cette question de l'univers de fiction. Et clairement, pour le. Imagine un civil, oui. Le mec qui essaie de gagner sa vie, payer son loyer, qui vit dans le monde des Vengeurs, de Captain America, et qui tous les jours voit le Rhino ou le Fléau en train de se taper au milieu de la rue et prendre sa bagnole, peut-être sa bagnole, tu vois, qui lui sert à aller bosser,
les bouchons.
Et qu'il la voit l'envoyer dans la gueule de Spider-Man. Non, tout le monde est Spider-Man, évite-le, et lui ma bagnole. et ce mec-là, comment ensuite il doit aller à l'assureur, surtout s'il lui restait. T'imagines comment? Parce que les assureurs, dans le monde Marvel, je suis certain, ils te couvrent plus.
Il y a des clauses entre Spider-Man et
tu te dis, attendez, vous habitez à New York et vous l'avez cherché. Vous l'avez cherché. La ville,
non,
est...
alors, okay, non, mais pour
donc
tout
c'est un univers de fiction.
Spider-Man, effectivement, si on étend avec les Avengers, avec tout l'univers Marvel, etc., machin, j'entends.
Je suis un puriste. Okay. C'est là où il vit.
Ok, non mais j'entends. Mais
d'accord avec lui.
Et tu vois, genre par exemple, Gotham, pareil, j'entends, parce que Gotham est déjà une ville. Bah oui. Voilà. Mais si tu prenais. Ce qui n'a pas de sens, parce que ça n'existe pas, mais si tu prenais juste Spider-Man dans New York, pour moi, c'est pas un univers de fiction. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec. Surhumain dans un monde normal.
Oui, mais il est pas dans un monde normal.
Oui, c'est ça, c'est impossible de transposer ça. L'univers a été. Enfin, le mec qui a écrit Spider-Man, il a créé un univers pour que Spider-Man.
Ouais, parce que par exemple, si tu te fais piquer par une araignée radioactive dans notre monde, tu vas à la
mourir.
Limite peut-être mourir d'un cancer, mais.
Peut-être avoir
tout.
Un gros bubon. Oui, mais il n'est pas dit que tu puisses te servir de ton araignée.
Du bon man, ça fait pas vendre beaucoup.
Oui. Non, pas des masses.
Pas.
Et je te conseille pas de sauter par la fenêtre juste parce que.
Mais c'est une réflexion intéressante.
Non, mais c'est comme tu vois, James Bond, par exemple, il y a plein de trucs qui n'existent pas dedans, mais c'est pas un univers de fiction pour moi.
Ouais, ça je l'entends, je l'entends par rapport à ta définition justement, mais tu pars aussi du principe que c'est Ian Fleming qui a créé un personnage. Donc forcément, c'est une fiction.
Non, mais c'est une fiction, mais vu qu'on parle de univers de fiction.
Mais du coup, la discussion est intéressante et du coup, la discussion est lancée. Mais qu'est-ce qui définit, donc pour toi, Cyril, vu que tu as commencé, qu'est-ce qui définit un univers de fiction? Où est-ce qu'il commence? Oui, entre guillemets, où est-ce qu'il s'arrête? Mais en tout cas, à partir de quand on peut dire, ok, c'est un univers de fiction?
C'est quoi? C'est deux personnages hors normes?
Non. Non, pour moi, c'est à partir du moment où un figurant, un PNJ de cet univers.
Personnage non jouable pour les gens qui.
Voilà. Il faut qu'un figurant, en gros, de cet univers ait sa vie qui puisse pas être comme la nôtre. Tu vois, genre dans James Bond, ma vie, non, ça changerait pas en fait. James Bond existe ou pas?
Il y a des vilains, toi tu parlais des vilains, t'as des vilains dans James Bond qui sont pas des vilains qui existent vraiment. Après, c'est des figures qui peuvent être proches, mais,
oui, mais
mâchoire
vie,
d'acier.
Mais toi, ta vie elle changerait pas, tu vois. Alors que si on est dans New York, Spider-Man, et il y a tous les vilains, il y a les Avengers et les machins, etc., effectivement, comme disait Fred, ta vie en tant que PNJ, désolé, no offense.
Ok, sympa.
Ta vie changerait.
On est tous le PNJ de quelqu'un, Cyrus, ok.
Donc pour moi, c'est ça la
définition. Ça avance quand même
vert,
la thérapie entre vous deux.
Oui, on y travaille.
Non,
on y travaille,
vraiment. On sort depuis le début de l'émission, il y a un truc qui a un rapprochement qui s'effectue.
Ok, donc toi, c'est le fait de, que, en tant que simple civil, ta vie puisse être impactée de manière extraordinaire, du coup.
Ouais,
par l'environnement.
Que, en gros, ta vie ne soit pas la même que maintenant, telle qu'on la connaît en 2019. Quoi, en
ok. Dedo, c'est quoi pour toi?
C'est presque un peu terre à terre comme vision, mais c'est intéressant.
Ouais, c'est très pragmatique.
Ouais, c'est ça. On sent que t'es cartésien dans la main. excuse-moi.
Non, pourtant, un univers de fiction, comment tu le définirais? En tout cas, où est-ce qu'il commence, en tout cas?
C'est pas simple parce que c'est vrai que quand tu creuses de manière un petit peu littérale ce sujet-là, c'est pas évident à intellectualiser. Je pense que quand tu vis dans un univers qui est justement hors norme quelque part, donc hors normalité, hors humanité assez basique, tu te retrouves par la force des choses dans un univers de fiction. Parce que dans ces cas-là, moi je vais un peu à l'encontre de ta définition. Si tu prends l'exemple si tu prends l'exemple de Gremlins par exemple, c'est un univers de fiction, sauf que ça se passe uniquement dans une ville et ça va pas influer ton quotidien. On est d'accord là-dessus? en tant que PNJ.
Ça dépend.
Parce que non, il est pas d'accord.
Non, mais il y a un moment où il y a une invasion de gremlins carrément.
Oui, mais surtout, dans la ville.
Il y a les infos surtout. Ça passe aux infos. Donc potentiellement dans d'autres villes, dans d'autres pays, le phénomène s'étend et dépasse juste.
Alors oui, mais pas à l'époque où ça se passe. C'est-à-dire que c'est, on est dans une temporalité qui fait qu'il n'y avait pas cette interconnexion et que du coup c'était uniquement relatif à la ville ou peut-être même aux États-Unis, mais c'est des télés locales. Donc c'est encore différent.
Bah, dans ce cas, pour moi, tu l'as précisé. Genre l'univers de fiction, c'est la ville de gremlins, tu vois.
Ah ouais.
Parce que dans ce cas-là, ça change le quotidien effectivement de ton voisin, tu vois, dans cette ville. Mais quelqu'un qui habite à Chicago à ce moment-là, il s'en bat les steaks.
Ah ouais, mais elle est quand même dans un univers
et
de
donc,
fiction
pour lui. Pour lui, le mec à Chicago, pour moi, n'est pas dans un univers de
Attendez,
fiction.
On a déjà brisé les rêves de Dedo sur Star Wars. J'ai pas envie qu'il sorte d'ici en dépression.
Ah non, parce que là, c'est juste une vision des choses pour le coup. Donc je peux juste être juste en désaccord avec la vision de Cyrus, même si ça doit se régler au catch, il n'y a pas de problème. Mais ouais, moi je pense qu'à partir du moment où on insère déjà des éléments fantastiques, quelle que soit la planète où il se passe, on est déjà pour moi dans un univers de fiction.
Ok.
Voilà. Okay. C'est ma définition.
Fred, tu es d'accord avec ce que vient de dire Dedo?
Oui. Même si je pense qu'en fait, pour moi, déjà, c'est très relatif de définir ce qu'est un univers de fiction et ce qu'est l'univers réel. Parce que si on a vraiment envie de faire mal au cul des mouches, on pourrait très bien dire que le monde dans lequel on vit actuellement est aussi un univers de fiction. Parce que, par exemple, via les médias, via les journaux, on entend parler de pays dans lesquels on n'a jamais mis les pieds. On n'en a pas une connaissance empirique. Moi, j'ai jamais mis les pieds au Liban, en Irak, en Syrie, je ne sais pas. Donc, en fait, l'idée que je me fais du réel, c'est déjà une construction qui est basée sur ce qu'on m'a dit. Et c'est parce que j'ai décidé d'accorder du crédit à ce qu'on me raconte que j'estime que c'est un monde réel. Mais finalement, c'est aussi une construction mentale au même titre, finalement, que certaines choses que j'ai pu lire dans Harry Potter ou ce genre de choses.
Tu veux dire que tu as une vision de l'univers de fiction à la Saint-Jean?
Exactement.
C'est-à-dire que tant que tu l'as pas vu, t'y crois pas forcément complètement.
C'est pas que j'y crois pas, c'est juste que en fait.
Saint Thomas, autant pour moi.
Le réel est c'est quelque chose de très subjectif. En fait, ça dépend avec qui t'en parles. Est-ce qu'on se met d'accord sur un contexte? Moi, je trouve que l'univers de fiction, c'est le principe du clou. Il y a une légende qui dit que parce que il manquait un clou au sabot, au fer à cheval du cheval du général, le général n'a pas pu partir au combat, il n'a pas pu donner des ordres à son armée a perdu la bataille et du coup le pays a perdu la guerre et voilà, tout ça à cause d'un clou. Et en fait, je trouve que pour moi, la fiction, c'est aussi ça, c'est-à-dire que tu introduis un élément perturbateur qui est ce clou. En l'occurrence, on parlait tout à l'heure de Spider-Man, et tout d'un coup, l'arrivée dans une sorte de réel un peu basique, lambda, est enrichie et complètement complétée par l'arrivée de ce personnage. C'est-à-dire que ça va créer des conséquences sur l'humanité complètement différentes. C'est-à-dire, attends, il y a un mec qui vient de dégoter des super-pouvoirs et qui désormais peut se balancer d'un immeuble à l'autre. C'est ça mon réel. Donc forcément, il y a des gens qui vont se dire, bah tiens, est-ce qu'on peut reproduire ce schéma? Est-ce que demain, d'autres personnes vont pouvoir faire comme lui? Si là-dessus, tu rajoutes l'arrivée des super-vilains, etc. Et tout ça, en fait, c'est l'effet papillon, en fait. Ouais. Et par exemple, tu regardes dans Harry Potter, les Moldus, si tu leur poses la question, ils pourraient avoir exactement le même sentiment que nous, c'est-à-dire de se dire, c'est le monde réel, vu qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a un monde parallèle de la magie. Pourtant, ils sont dans un univers de fiction, parce que ça a été défini comme ça par J.K. Rowling, qui dit sauf qu'ils ne le savent pas.
En fait, j'ai l'impression que c'est extrêmement gradué, c'est-à-dire que c'est très nuancé, et genre, ça part de, par exemple, Bridget Jones. C'est une fiction, mais qui se passe dans notre univers a priori.
Bien sûr, oui.
Mais du coup, son univers est un univers de fiction.
Mais c'est en ça que
la fiction au sens large.
C'est
après.
Ça, en fait. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est très compliqué de donner les contours de ce qu'est un univers de fiction, tellement c'est subjectif au final.
Oui.
C'est la subjectivité qui fait que tu vas te dire ça existe ou pas, ou est-ce que si c'est pas dans un univers quotidien, c'est vraiment de la fiction? La fiction, en fait, purement, c'est d'avoir créé quelque chose.
Au moins
soi.
Pour le début. Après, je pense qu'effectivement, on va prendre par exemple Star Wars. Je pense que c'est difficile de se dire, je le considère pas comme de la fiction et tout. C'est juste qu'il y a une nuance, en tout cas, sur peut-être les zones de fiction qui sont plus floues avec notre vrai monde. Ouais,
je vais préciser.
Tu voulais me couper la parole, c'est ça? Vas-y.
En fait, je vais préciser ce que j'ai dit tout à l'heure, là où tu m'as contredit. C'est que, en fait, dans le cadre de ce podcast, en fait, je me rends compte, c'est plutôt ça. Dans le cadre de ce podcast, les trucs que moi j'imagine et les trucs que je considère entre guillemets intéressant à la discussion, etc., c'est des univers de fiction qui sont quand même
très déployés.
Voilà, déployés. Mmh. Tu vois.
Oui, ils sont plus. Oui,
oui, c'est plus intéressant. Parce que d'autres. Parce que vivre dans Bridget Jones, oui.
Voilà.
C'est un,
c'est
un,
pas,
un
peu relou,
ticket hein, à griller, pas ouf, quoi.
Voilà, c'est ça.
Mais du coup, rentrons encore plus dans le vif du sujet et commençons à partager un petit peu quel est pour vous, chers invités, le meilleur univers de fiction dans lequel vivre. Je tiens à préciser cette donnée qui va être importante parce qu'élire le meilleur univers de fiction, pour le coup, c'est compliqué. On va pas dire à Tolkien, quand même, t'as mal bossé la géologie à un moment, du coup, on peut pas t'attribuer le titre. Du coup, on va vraiment spécifier sur. Selon nous, dans quel univers de fiction vaut-il mieux vivre et pour quelles raisons? Dedo, est-ce que tu veux ouvrir le bal?
Oui, pourquoi
comme
pas.
On dit dans les années 80 pour continuer.
Oui, tout à fait. Continuer avec les biscuits désuets. Les biscuits désuets que vous ne voyez pas actuellement. Là, on est entouré de napolitains et de Chamonix.
Tu veux un Quality Street, Cyrus?
Et du coup, on est presque quelque part cohérent avec mon idée justement d'univers
belle
de fiction.
Transition.
Ah, on essaye. Et qui est pour moi l'univers d'Amblin. Amblin Entertainment, justement, qui a été créé par Spielberg en soi. Amblin, qui est donc une boîte de prod qu'il a créée pour distribuer des films dont il est producteur exécutif ou scénariste par moment. Et donc, on a pu avoir à l'intérieur des films comme Les Goonies, Gremlins, Les Retours vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, et plein d'autres encore. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Amblin, justement, moi, ce qui me plaît, c'est qu'on est dans plusieurs sous-univers. On peut être dans l'onirique, le fantastique pur, les choses reliées à l'enfance, mais aussi dans des choses un peu plus pragmatiques, comme La couleur pourpre, par exemple, ou bien Les nerfs à vif, qui est tout de suite un peu plus thriller. Donc moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on aborde un peu toute la palette des émotions qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Donc moi je m'y retrouve, parce que je me dis, j'ai le choix entre des dizaines et des dizaines de choses, alors qu'on est dans un seul et même univers. Donc moi, je suis très, 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 très friand de ce genre de références-là, forcément. Ce qui me plaît également dans l'univers d'Amblin, même s'il s'est développé de décennie en décennie, c'est qu'on est dans un univers qui se passe... En tout cas, pour moi, l'âge d'or d'Amblin se passe dans les années 80, la plupart du temps, ou 90. Et ce qui m'attire énormément là-dedans, c'est qu'on n'a pas cette interconnexion permanente. Le fait d'être relié, comme on l'est maintenant, aux réseaux sociaux, aux mails, ne serait-ce qu'au téléphone. Il y avait, en plus, le thème de l'enfance est souvent abordé, mais il y avait quelque chose qu'on a perdu, je trouve.
L'innocence.
L'innocence, peut-être pas, mais une certaine naïveté et une certaine liberté. Dans le sens où avant, quand on se barrait, encore plus enfant ou adolescent, on était parti pour la journée. Et il y avait un sentiment d'aventure, même s'il ne se passait rien, on se disait, voilà, là c'est un temps,
c'est vrai, c'est
un temps qui m'est propre. C'est quelque chose qui est terminé maintenant, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il suffit de faire deux pas dans la rue et voilà, quelqu'un peut t'appeler, t'es où, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je trouve que justement, il y a quelque chose d'excitant là-dedans, qu'on a par la force des choses, malgré le fait que la technologie nous ait amené des choses incroyables, elle nous a aussi retiré beaucoup de choses par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui me manque personnellement, parce que je sais qu'avant, on avait cette possibilité de chasse au trésor.
Putain, je vais chialer, putain.
Ben non, mais c'est vrai que moi, j'ai un peu de nostalgie par rapport à ça, parce que la chasse au trésor, pour moi, le simple concept de chasse au trésor est devenu impossible. On a accès à tout, n'importe où, n'importe quand. C'est difficile de se dire, ah, il y a quelque chose d'inatteignable, qui est quelque chose qui peut nous donner de l'espoir ou de l'envie ou quoi que ce soit.
D'où les escape rooms.
Je suis d'accord, mais la plupart
du temps, autant,
la plupart du temps, en plus, on va au bout. Moi, j'adorerais une escape room qu'on ne puisse pas finir. Tu vois, quelque chose de
On en a fait quelques-unes.
Oui, on les a pas finies.
Ils sont compliqués.
T'es bien l'accueil de l'escape game.
Ouais, c'est ça, ils font tout pour que ça marche pas. Mais je trouverais ça excitant quelque part, qu'on ne puisse pas aller au bout de quelque chose.
Ouais, qu'en gros, soit du temps. Genre, t'as un escape game de 2 heures qui est infini. Tu vas essayer de faire le plus possible en 2 heures. Enfin, dans l'autre sens, du coup.
Ce serait. C'est marrant parce que. Et c'est d'ailleurs un film Amblin, tu vois, en y pensant spontanément. Mais Ready Player One, par exemple, parle de ça.
Oui.
Parle d'une certaine chasse au trésor instaurée qui, quelque part, réunit tout le monde. Et c'est compliqué maintenant de se réunir tous derrière quelque chose, en tout cas inatteignable. Et je trouve que c'était une période où, et ça se ressent dans beaucoup de films de Amblin, les Goonies en particulier, qui est une chasse au trésor incroyable, où bah, ça me manque ce côté-là. Même le simple fait avant d'avoir des vidéoclubs, c'était quelque chose de fort, parce que t'étais pas sûr d'avoir le film que tu voulais, tu pouvais te dire, ah, peut-être que je vais découvrir des trucs et tout.
Et c'est un porno
au final, et t'as gagné.
Ouais,
t'as gagné.
Ça t'inquiète.
Et ben on peut plus gagner maintenant, parce que cette surprise-là, elle est même plus possible.
C'est vrai qu'il y avait ce truc de j'espère qu'il sera dispo et tout, machin.
Ouais.
Tu t'organisais ta soirée, machin. Non, mais en fait, faut que je le prenne mercredi, parce que ce week-end, tout le monde va être dessus.
Et c'est trop tard. Mais alors maintenant, ce qui est fabuleux, c'est que l'accessibilité à tout est génialissime pour le coup, parce que si tu cherches un film, en te donnant un minimum les moyens, tu vas le trouver.
Pas à tout.
pas à tout, mais à beaucoup de choses quand même. En tout cas, dans le principe de divertissement, par exemple.
Mais ça tue aussi un peu. J'avais fait une vidéo sur ça qui s'appelle « Pourquoi les vidéos YouTube sont chiantes
?» Lien dans la description.
Et donc, ça parle de l'engloutissement, de la singularité à cause du surnombre.
Ouais, bien sûr.
Et que du coup, en gros, tout paraît... tout paraît un peu fade.
Mais oui, mais parce que justement, vu que t'as accès à tout, la plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui vont amasser des tonnes et des tonnes de films, de BD, de beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit par le biais de scans ou de pas mal de trucs. Et au final, on se plonge rarement pleinement dans quelque chose parce que parfois même, c'est tétanisant. Juste de se dire, il y a tout ça, par quoi j'attaque ? T'attaques par rien.
C'est l'effet flunch ?
C'est l'effet. J'ai cherché l'analogie et après, t'as vu, j'ai bloqué net.
T'as envie de manger tout, tu trouves une assiette avec 8 plats différents et t'en trouves pas un ouf parce que t'as un peu de tout et que du coup, c'est pas comme si on savait un plat que t'es obligé d'apprécier quoi.
Ça se tient.
Ouais. Moi, j'ai une remarque juste sur Amblin.
Ouais.
Comment on sait que c'est le même univers ?
Alors, c'est pas un univers dans le sens Castle Rock par exemple chez Stephen King. C'est avant tout pour moi quelque chose que je définis par le fait que c'est des films estampillés Amblin. Donc produits sous cette égide là. Et du coup, pour moi,
il y a pas un mec dans le monde Amblin qui a vu Retour vers le futur, enfin qui a qui a pu croiser Marty McFly et qui a pu croiser en même temps.
Non, c'est pas un univers.
Non, effectivement, c'est
okay,
pas.
Ok, donc c'est hors sujet.
Il est dur. Je t'avais prévenu, Dedo. Je t'avais dit dans le mail.
Non, mais j'entends.
Au cas où.
Ah, tu lui as dit ça ?
Oui. Je lui ai dit, c'est très cool. Effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir ce.
Good cop, bad cop.
Ah ouais, mais c'est bien, c'est bien.
Non, non, mais d'ailleurs, ce prisme-là et d'essayer justement de prendre un univers qui n'a pas été créé explicitement, mais qui au final est cohérent par toutes les pierres qu'il compose.
Ah oui, moi je trouve ça chambé. Mais de dire. Ouais, c'est pas vraiment
pour le
sujet.
Thème, je lui ai dit au cas où, est-ce que tu peux préciser un film Amblin dans lequel tu aimerais te projeter davantage, dans lequel tu te verrais vivre.
C'est vrai, et c'est vrai que je t'ai dit non, j'ai pas envie de faire ça. C'est vrai aussi, donc tu vois, le good cop, bad cop a fonctionné, mais limitativement au final, quoi. Non, ouais, c'est vrai que j'avais pas envie. Alors, si je devais en choisir un, je pense qu'il est assez représentatif de tout ça et de tout ce que j'ai pu dire auparavant, ce serait peut-être les Goonies du coup.
Okay.
Parce qu'effectivement, cette quête de quelque chose qui est pas atteignable en tant qu'enfant, et finalement qu'il est parce qu'il découvre que c'est possible, et le côté aventure aussi, aventure permanente, qui est plus compliqué à avoir maintenant, je trouve.
Aventure permanente, désolé, j'ai vu ça sur une sur un magasin de coiffeur. Aventure permanente.
Oh la vache,
ça marcherait hyper bien.
Mais tu sais, ce qui est triste, c'est que malheureusement, tu viens de donner une idée à quelqu'un dans le monde. Et que ce magasin va exister en France.
Mais il existe déjà en fait.
Mince, putain, trop rapide.
Non mais moi, il y a un truc que je me pose aussi comme question, c'est que du coup, le voisin des Goonies.
Sérieux, ça a besoin d'avoir quelque chose de se projeter.
J'ai l'impression qu'il est. Et surtout que sa subjectivité est très cartésienne. De base,
est-ce que
il a besoin d'avoir
un mec des Goonies.
Est-ce que son cousin
avait un bateau de pirates.
S'il ne voit pas le trésor, s'il ne voit pas.
Pour le voisin des Goonies,
ouais.
Ça change quoi à sa life ? Est-ce que ça change un truc ou pas ?
Ah bah parce que oui, il a vu des flics débouler, il s'est rendu compte qu'il y avait des tirs, il y avait des machins, et peut-être que les enfants vont lui raconter cette histoire, après
et
il croit, il y croit pas.
On sait pas ce qu'il a vécu, c'est-à-dire que dans un monde où les Goonies peuvent vivre ça, il y a peut-être un film qui n'a pas encore été tourné sur ce que a vécu le voisin.
Complètement.
Ça
mais après,
tout le monde vit des trucs chelous
c'est
comme
en
ça.
Que,
j'ai pas vu les Goonies.
C'est en ça que ça c'est pas grave. C'est en ça que justement
tu disais. Non mais c'est pas grave, mais je veux bien un petit synopsis du coup.
Oh, c'est un groupe d'enfants qui se retrouvent d'un coup. Il y a la maison de leurs parents risque d'être mise en hypothèque. Ils ont besoin d'argent et ils tombent sur une carte au trésor et ils se disent que ce trésor-là peut les aider à faire en sorte que la maison soit pas vendue. Ça, c'est le pitch de base. Derrière ça, il leur arrive des tas d'aventures.
Il y a des trucs fantastiques un peu et tout.
Oui, il y a du fantastique quelque part. Voilà, ils découvrent justement un personnage particulier, sans trop spoiler justement. Et on est entre la comédie, le film d'aventure, ce que j'appelle le film de bande, parce que du coup, tu suis un groupe d'enfants.
C'est le club des cinq. Quoi.
Le club des cinq, voilà, un peu à la Stand By Me, mais en plus joyeux. Moins on découvre un cadavre.
D'accord.
Et Stranger Things, mais sans démon
de complètement. Stranger Things, justement, qui sort justement sur cette ambiance Amblin, qui le fait un peu de manière Canada Dry, de mon point de vue.
Vous connaissez La Chouette Dorée ?
Bien sûr.
Oui. Ouais.
Bah ça me fait un peu penser à ça.
Ouais, vas-y.
Non, pardon, juste pour l'expliquer aux gens qui connaissent pas, qui nous écoutent potentiellement La Chouette Dorée. Mais après, vas-y, je dédose, si tu voulais finir avant.
Je voulais juste dire que effectivement c'est intéressant parce que j'étais en salle, la subjectivité dans l'univers de fiction, je t'ai pas contredit tout à l'heure, je t'ai juste dit que ma définition n'était pas la même que la tienne.
Oui.
Et cette nuance-là, je trouve qu'elle est inhérente justement à ce qu'est un univers de fiction. Voilà.
Et ça, c'est une phrase qui va être étudiée à l'école
pendant de nombreuses années. Et j'espère que ça sera en CE2 et que tout le monde dira j'ai rien compris.
Il y a énormément d'élèves qui ont dit oh putain, il y a des dos qui tombent à l'examen, j'avais pas révisé.
Cyrus, La Chouette Dorée.
Ouais, La Chouette Dorée, très vite fait, de ce que j'ai compris. Hein.
Ça a bien parti cette explication. Elle est sympa.
En gros, c'est un mec, il a pris une chouette dorée en or. Il a fait une chouette en or.
Une sculpture.
une sculpture.
Enfin, il a pas pris une vraie chouette qu'il a trempée dans un baril d'or. Enfin,
yes.
Bien.
Yes, yes, yes.
Les gens qui.
Yes,
enfin,
yes, yes,
de...
yes.
Pas de.
Yes.
Proco
yes,
de.
Yes.
Voilà, quoi.
Ok, yes.
Bien clair,
yes,
quoi.
Yes, yes, yes.
Voilà.
Il a ensuite caché à un endroit en France, sans dire où c'est. Il a fait un bouquin. Il a fait un. Il a tout un bouquin pour donner des pistes et voilà une énigme géante. Et en gros, le gars qui trouve la chouette, il a combien? Combien il a...
Je sais plus, mais je crois
mais beaucoup d'argent.
Il n'y a pas une somme particulière, c'est justement la somme que vaudrait cette chouette dorée là, qui est quand
oui,
même aux
ça.
Alentours un peu plus de 100 000 euros, si je dis pas de conneries. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chouette dorée est déjà.
Ils l'ont pas trouvée. Elle est toujours.
Ils l'ont pas trouvée.
Officiellement, ça se trouve le mec qui l'a trouvée.
Alors
a
non,
tout
parce
gagné à dire, je l'ai
apparemment, il y a un huissier dans l'histoire, donc c'est quelque chose qui est contrôlé malgré tout. Par contre, l'histoire de la chouette dorée, c'est déjà repris d'un concept de chasse au trésor aux États-Unis qui a été mis en place par quelqu'un. J'ai lu un article là-dedans dans Society qui dit. Mais par contre, on n'est pas certain que ce mec-là soit vraiment avéré en termes de il a caché un trésor quelque part. Et je trouve ça presque plus fort que de me dire qu'il y a vraiment un trésor. Parce que pour moi, c'est très bassement philosophique de comptoir, mais pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est le parcours de l'aventure que tu vis, plus que de le trouver. Et je pense que justement, quand tu pars dans cette quête-là, dans cet article de Society, il y avait une nana qui en parlait, qui disait « Moi, ça fait 20 ans que je cours après, et je crois que je suis sur la piste. » Et en même temps, je me dis « Si je le trouve, est-ce que je ne vais pas plus y perdre qu'y gagner ?» Dans le sens où, bah, ça y est quoi.
Ouais.
C'est comme quand, si tu butes ta Némésis,
ouais,
t'es content,
ouais,
mais c'est quoi qui te fait te lever le matin?
C'est pour ça que Batman, il le fait jamais avec
exactement
le Joker.
Ouais. Et moi, je pense qu'ils sont ensemble avec le Joker, c'est autre
ouais,
chose.
Moi, je pense aussi, ouais.
Mais il y a une planche d'ailleurs là-dessus.
Wow.
Ah bah c'est Killing Joke de Alan Moore.
Tout à fait.
Où en fait, il montre que c'est deux faces d'une même médaille.
Ouais.
Et l'un est obligé d'avoir l'autre pour avoir une justification. Et d'ailleurs, dans un autre arc scénaristique où le Joker change d'adversaire parce qu'il s'ennuie avec Batman, donc il change de partenaire et il se met à jouer avec Superman, et ça se termine très très mal parce que Superman n'étant pas Batman, n'ayant pas les mêmes névroses et la même compréhension, tue le Joker et ça le fait basculer et Superman devient un tyran pour toute la planète parce que justement il n'a pas supporté de jouer sur le même tableau que les ennemis de Batman habituels parce que c'est pas du tout les mêmes personnages.
Trop stylé.
Ouais. Et Killing Joke est un super arc
oui,
dans Batman
oui,
d'Alan
oui,
Moore. J'ai appelé mon spectacle à cause de ça justement parce que dans le sous-texte, la dualité justement que tu peux avoir, c'est la même chose que la représentativité que tu peux avoir en termes d'image et qu'en fait il faut peut-être aller au-delà de cette image pour se rendre compte qu'il y a plus qu'une caricature.
C'est une deuxième phrase qui sera étudiée.
Tout à fait.
Décidément. Waouh.
Là, ça va être un semestre. Hein.
Ah bah là, ouais. On va créer des mémoires.
T'as pris des dos en module, ouais, putain.
Ah mec, accroche-toi. Hein.
Moi, j'ai pris Cyrus, j'ai révisé en 2 semaines.
C'est au rattrapage, non?
Fred, c'est quoi pour toi le meilleur univers de fiction dans lequel vivre?
Eh bah alors moi, c'est simple. C'est la Comté dans
ah
Le
ouais.
Seigneur des Anneaux. Voilà, mais vraiment, alors, l'univers du Seigneur des Anneaux, mais la Comté.
Ah là là.
Parce que... pour une raison très très simple.
Il est pas content, les gens se rendent pas compte, hein, mais les alala sont un peu énervés de Cyrus.
Oui, on sait pas trop s'il
on
est
sait
content,
pas s'il est content ou s'il est énervé.
Non mais, ah non, vas-y, je te laisse, vas-y. On en parle après.
Il va y avoir un débat très cool en tout cas.
Lui il a pris la franche comté, du coup ça a un peu la même.
Moi c'est la même chose, mais ils sont francs quoi.
Ouais.
Non, vas-y, vas-y.
Non, mais en fait,
vas-y.
C'est-à-dire que moi j'ai. Vraiment, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, bon, alors, Star Wars. Star Wars, les trois quarts du temps, t'as un régime pseudo-nazi qui se promène comme ça de planète en planète avec l'empereur, les stormtroopers et tout ça. T'es un petit woke, à la limite, tu vis tranquillement en autonomie dans ta forêt et t'as des soldats qui débarquent et tu te retrouves embarqué dans un conflit qui te dépasse, mais t'es un gentil woke, donc tu rends service et au final t'attaques avec des lances, des robots qui te défoncent la gueule et t'as cette scène, mais dont personne ne parle jamais dans le Retour du Jedi où t'as un petit woke qui s'est fait exploser et l'autre il se lève après l'explosion et il se coud et il se réveille pas. Et moi j'étais là, je dis, il est mort. Il est mort et tout le monde s'en bat la race. C'est-à-dire que on a affaire à des autochtones qui sont rentrés dans un conflit juste parce qu'il y a un putain de robot, de droïde qui leur ment. Est-ce qu'on comprend quand même l'univers de Star Wars, quand même la cruauté du truc? Ils sont là et ah, oh, je suis votre dieu. T'as Luke qui fait flotter 6PO au-dessus de tout le monde et tout le monde dit, oh, c'est un dieu. Et parce qu'ils croient que c'est un dieu, parce que leur système de conviction est complètement ébranlé, ils sont prêts à aller mourir pour des gens qui n'en ont rien à foutre d'eux. Et ça, donc vraiment, je me suis dit...
Pas Ewok, du coup, pas...
Je crois que c'est une analogie avec le veau d'or et la Bible et
oui,
tout ça.
Oui, mais ça m'a fait du mal. Donc je me suis dit, pas Star Wars.
Oui, puis ensuite, Star Wars, tu peux te faire exploser ta planète d'un moment à l'autre sans rien avoir demandé, quoi. Oui, voilà, qui voilà, se passe voilà, sur ta oui, planète, voilà. Tu vis bien.
On a fait un test.
C'est
on
bon,
avait,
ça marche bien.
On avait l'étoile de la mort numéro 28 et elle est... Voilà, c'est
comme
c'est...
cette épée de Damoclès constante ouais. qui est pas très rassurante.
Je les trouve quand même assez lèges sur le génocide quand même dans Star Wars.
C'est vrai que ça va vite, hein.
Ah ben ouais. Oui, Alderaan, ouais. Alderaan, pff, voilà, elle explose. Ouais. Alors, princesse, où sont les rebelles? Je veux dire, ils sont, enfin, ça les gêne pas, quoi. Et donc Star Wars, non, c'était pas possible. Le monde d'Harry Potter, bon, alors soit t'es un sorcier, mais je veux dire, alors, t'as plein de gens qui disent, oh, moi j'adorerais, mais Poudlard, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, je veux pas aller pisser et me retrouver face à un troll ou chier dans un bassin et tout d'un coup t'as un fantôme mimi pleureuse qui sert. Ah, oh, tu m'as chié dessus. Je veux dire, mais je veux pas ça.
Chier dans un bassin, du coup, par rapport à quelle pratique.
Mais non, mais je veux dire, quand tu vas
dans quel tome d'Harry Potter ils chient dans le bassin.
Non mais ils vont bien aux toilettes. Et oui. Mimi Géniard, elle est dans les toilettes. Moi, au bout d'un moment, je dis, bah, je suis désolé, j'utilise pas les toilettes de Poudlard. Il y a Mimi Géniard dedans, je n'y vais pas. Je n'y vais
pas.
T'as des trolls qui apparaissent, les profs, une fois sur deux, tu, au niveau des normes de sécurité,
ils font pas beaucoup l'appel.
C'est, voilà, vu, c'est pas... monte sur ton balai, oh bah il a le bras cassé, vas-y, on va le réparer. Alors, c'est sûr, avec la magie, tu répares vite, mais n'empêche que tu te fais super mal.
Ah bah oui.
Donc, et puis en plus de ça, t'as les monges morts, t'as Voldemort qui débarque.
Ça dépend des périodes, il y a des périodes qui sont plus tranquilles.
Ouais, mais moi je trouve que quand même, c'est chaud. En plus, maintenant qu'elle fait des suites ou des préquels ou tout ça, tu te rends compte qu'il y a toujours un moment donné, ça a merdé quoi. Ou alors, t'es moldu, et effectivement, tu vis dans un monde. Ouais, donc ça change rien, donc je me suis dit, il n'y a pas de plus-value. Le monde Marvel...
On est quand même, désolé, sur une stratégie où tu décides de tout descendre avant de faire le tien, quoi. C'est
offensif. En vrai, moi, je suis en plein kiff, parce que pour l'instant, tout ce qui se passe...
C'est pas le tien?
Non, mais c'est ce que je me suis dit dans ma tête.
Ah, okay.
Et en fait, le cheminement de pensée, pour l'instant, on est... Et c'est pour ça que vous allez comprendre leur... Ah là là là, mais vas-y, continue.
C'est... Non, mais voilà. Mais
pour l'instant...
Voilà, parce qu'il y a eu un cheminement.
Tu fais vraiment un qui est d'univers, quoi. T'es en train de virer ça non.
Ensuite, t'as l'univers DC Comics avec Superman et tout ça. Alors, moi, parce que Superman, Metropolis, effectivement, c'est une ville qui est assez policée par rapport à Gotham, où là, t'as tous les psychopathes, le mec qui parle à des marionnettes, l'autre qui parle aux plantes, des plantes carnivores.
Non, Gotham, c'est mort.
Gotham, c'est mort. Personne ne vit à Gotham. Je sais même pas pourquoi les gens. Mais...
Je pense que le prix de l'immobilier à Gotham est extrêmement faible.
C'est pour ça que j'ai envie d'y habiter, moi, parce que tu peux avoir un putain de duplex à 50 balles.
Ouais, mais en même temps, je veux dire, il se passe trop de crimes, et puis Batman, c'est quand même qu'un humain, donc il peut pas être partout.
Le club sadomaso de Gotham, ça doit être un niveau.
T'imagines?
T'imagines
si t'as une maison à côté de l'asile d'Arkham.
C'est pas ouais.
Je crois qu'autour il y a pas trop de bâtisses.
Mais moi, imagine la visite. Mais c'est sûr, mais vraiment. Et mais pour le prix qu'on a vu sur. Oui, vraiment. C'est qu'il y a 3 étages. Vraiment plein sud.
Oui, c'est que 20 euros
et
l'année.
C'est quoi le manoir qui est à côté? Oh, c'est rien. Oh, mais quand même, il a l'air bizarre. Il y a grosse fenêtre là. Oh, l'asile d'Arkham, c'est rien. Non mais tu peux pas. Donc je me suis dit Metropolis. Mais Metropolis, ça pose une autre question. C'est-à-dire que tu vis.
Faut parler anglais déjà.
Non mais et puis surtout pour moi, tu vis.
Le mec hyper terre à terre.
Tu vis dans le monde de Big Brother. C'est-à-dire que au-dessus de toi, en permanence, même s'il n'est pas là, t'as un mec qui s'appelle Superman. Effectivement, qui fait la pluie et le beau temps, mais qui peut te voir Ken, qui peut te voir. Il te surveille comme ça. Et je me suis dit, mais non, je peux pas vivre avec un œil totalitaire comme ça qui va se promener comme ça. Aujourd'hui, je suis encore gentil, mais peut-être que je vais devenir méchant. Et savoir que tout d'un coup, parce qu'il a une mauvaise journée, il peut tout péter. Non, c'est pas possible.
Tu pourrais pas vivre aux États-Unis de nos jours, donc.
Non. Non, absolument pas. Et enfin, le monde Marvel, alors là, clairement, ils sont trop nombreux. Il y a trop de super-héros.
Ouais, c'est le bordel.
Et là, on est pareil. C'est-à-dire qu'en plus, il y en a. Ils se sont dit, oh, New York, il y en a trop. Donc, il y a une autre série qui va se passer sur la côte ouest, avec les Vengeurs de la côte ouest, San Francisco. Toutes les villes des États-Unis, il y a eu un truc. Stanford, avec l'arc scénaristique Civil War, ils l'ont carrément fait exploser parce que les New Warriors, ils faisaient une émission de télé-réalité pour arrêter des super-vilains. T'en es trop, un mec qui a le pouvoir de se faire exploser. Il y a un pouvoir nucléaire qui se fait exploser, il a ravagé l'école et une moitié de la ville. Donc tout le monde Marvel est irradié. Enfin, un coup t'as Hulk qui s'est fâché avec l'armée, il pète tout. Enfin, donc non. Et donc finalement, je me suis dit, le monde du Seigneur des Anneaux. Alors, pareil, monde de merde, hein, parce que t'as des orques. Il faut comprendre que moi j'ai 40 balais, hein, j'ai 40 balais et deux gosses. Hein, et j'en suis, peut-être que vous m'auriez posé la question à 20 ans, c'était pas la même réponse. Mais à 41 ans,
Mad Max peut-être.
Oui, voilà. Mais à 41 ans, sincèrement, t'as envie d'être dans un
posé,
petit
quoi.
Milieu un peu bucolique.
Mais c'est vrai. Et toi, en fait, tu veux un petit jardin, quoi.
Mais moi, mais j'ai un
petit pavillon.
Mais je suis bien. Je suis. Et je trouve que les Hobbits, quand j'ai fait le calcul, je me suis dit, surtout dans le livre, finalement, le seul moment, vu que personne sait qui ils sont, à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un en terre de milieu, ils disent, mais c'est quoi cette race? C'est des Hobbits. Et donc, je me suis dit, ça veut dire que personne sait qui ils sont. Ils se sont pas mêlés aux autres. Et en fait, ils vivent comme ça. Et leur seul problème, c'est, alors, ils bouffent, ils picolent. Ils se font des petites fêtes avec des feux d'artifice. Et le seul souci de Bilbo et autres, c'est « Oh, il y a les voisins qui vont me piquer de l'argenterie !» Mais sincèrement, moi, ça va. Ça, c'est le genre de vie. Ça va. C'est joli. Tu te promènes. Des fois, t'as Gandalf, il vient. « Ah, salut Gandalf !» T'es là, des petits... je trouve que tu peux te mettre sous un arbre, lire un livre. C'est bien. Et le seul moment où ils se sont vraiment fait chier dans l'histoire, c'est quand Saruman, dans le livre, parce que c'est pas arrivé dans le film, Saruman veut se venger sur la comté. Et donc, effectivement, je me suis dit, bon, bah là,
il y a un risque.
Il y a un risque, mais par rapport à tous les autres univers
moins
que j'ai cités...
Mais
voilà.
Est-ce que
c'est marrant parce que moi dans mon univers je cherche l'aventure et toi tu cherches tout le contraire. On est vraiment à l'opposé quoi.
Ah ouais. Non c'est.
Moi, l'aventure c'est une salade qui pousse.
Non mais parce qu'en fait si tu veux ça, la question c'est dans quel univers vous voudriez vivre.
Le meilleur univers dans lequel.
Voilà. Donc pour parce que si Jérôme tu m'avais posé la question. Quel personnage de fiction vous rêveriez d'incarner?
Ah mais évidemment.
Alors
c'est
là,
complètement différent.
C'est-à-dire que si jamais
tous dit Bill du Big Deal.
Mais mon corps, ma psychologie ne rentre plus en ligne de compte. Mais alors là je veux de l'aventure.
Ah bah
là
voilà.
je veux être T'Challa Black Panther, je veux être Wolverine, je veux être Conan le Barbare. Là il y a pas de problème. Envoyez-moi ce que vous voulez, je le nique.
J'y vais.
Je le nique. Mais simplement j'ai conscience
avec
de ce que
ton
je suis
corps.
Aujourd'hui voilà. Et mon corps lui ça. Il dit comptez.
Ouais.
Comptez.
Il dit des tomates. Ouais.
Des
un
tomates,
petit peu de betterave,
une petite bière, une petite pipe.
Ben oui.
Voilà, et vraiment, ton seul problème, c'est la famille, quand même, qui a un petit peu rapia, puis qui aime bien dire du mal des autres. Voilà, c'est tout. Voilà.
Cyrus, ton rebond, alors,
ah
par
là
rapport
là
à ce que vient de dire Fred.
On a envie d'entendre d'où vient ce ah là là de Cyrus. Il a créé un cliffhanger.
J'espère quand même que t'es passé à travers les balles réelles que Fred a tirées sur l'ensemble des autres univers de fiction et que ton univers n'a pas été cité.
Mais tu connais mon univers?
Non, tu me l'as pas dit.
J'espère que tu vas dire Truffaut.
Non, mais justement, on va en parler. Mais en gros.
Peut-être qu'on a le même, Cyrus.
Ah bon? Attends. En gros, je comprends totalement le raisonnement. Et en fait, le moment où moi, tu parles de Seigneur des Anneaux. Je trouve ça un peu facile de limiter à la comté, tu vois. Genre, l'univers de Seigneur des Anneaux, c'est l'univers global, tu vois. Et c'est pour ça que je fais oh là là, parce que c'est trop facile. Tu vois, c'est tellement facile. C'est comme si je disais dans l'univers de Star Wars, Naboo, mais ostracisé. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Non, mais c'est effectivement un.
Et pour moi, c'est cheaté.
Tu peux pas prendre qu'une partie, quoi.
Ouais, voilà, parce que sinon, je t'aurais dit.
Ouais, mais
je
peux
te
pas,
suis à fond.
Toi-même, tu peux pas vivre partout.
Non, mais tu peux choisir.
Non.
Mais t'as les risques inhérents
voilà,
du monde sur des anneaux qui restent présents tout le temps et tu seras jamais.
C'est-à-dire que t'as toujours le risque qu'un mec comme Sauron, à un moment, ils se disent vas-y, même ce bout, je vais le choper. Et qu'ils arrivent et te défoncent,
oui,
quoi.
Mais dans l'œuvre de fiction. Tu vois que Sauron n'a pas tourné son regard vers la comté. Il n'y a que Saruman qui l'a fait.
Mais pourtant, alors, moi j'avoue, j'ai lu que les deux premiers.
Ah bah
et,
voilà.
Voilà.
Alors, excusez-moi, mais, non, moi, après... j'ai envie de débattre avec des gens qui, quand même. mais là. Bon, alors, je vais essayer de faire un effort.
Mais il y a un moment où, genre, ils sont avec Galadriel. Et ils ont une vision. C'est Frodon qui a une vision en regardant
dans le
chapitre. Exactement. Et là, la comté, elle se fait dégommer la race.
Exact. Mais c'est une vision qui concerne Frodon. C'est-à-dire que c'est pour que Frodon aille faire sa quête.
Et surtout, c'est une
dystopie. Moi, dans ma comté, Frodon, il existe. Il est parti faire sa randonnée. Et là, avec Sam, avec tu vois, cette bromance, ouais. Cette bromance entre deux. Il se fait gnaquer le doigt par Gollum. Ils sont tous là. Moi, je suis juste resté à la comté. Et j'ai revu un Sam qui est revenu un peu scarifié, genre viens, c'était dur ce qu'on a vécu, il y a pas vraiment de retour.
Et toi tu dis ah nous on a plus de bière donc
chacun ses problèmes.
Mais t'as quand même le risque. Le premier point c'est ça, c'est que t'as quand même le risque qu'à un moment il y a un seigneur de guerre
bah ouais,
qui a envie de prendre ses terres, tu vois. Donc ça c'est un peu relou.
T'es petit.
où que tu sois, quel que soit l'univers fictionnel ou non, il y a des problèmes.
Ça dépend lesquels.
Non mais tu vois, voilà, c'est ça. Non,
mais... Alors lequel, dans lequel il y a zéro problème.
Attends.
Mary Poppins.
Attends.
Mais t'en sais rien. Ça se trouve, il y a un méchant qui peut débouler et dire: ah, vous croyez chez Mary Poppins? Eh ben non. Je suis bad violeur. Tu dis: bah, je savais pas, désolé. Alors.
Simplement, je suis pas Paris dans Man, c'est bad violeur. Bad violeur.
Non, le deuxième problème dans la comté, c'est que je pense que leur système de santé est quand même bien pourrave, tu vois. Et il y a plein de trucs.
Mais toi, t'es dans un délire de carte vitale, mec, c'est chaud. T'as des problèmes inhérents.
Mais tu vois, genre, le temps, on en parlait avec Tom, et je
les
disais...
Les cotisations.
Je disais, t'es un mec du Rouen, et tu dois chier, c'est casse-couille. C'est-à-dire que, genre, tu vas chier dans une chaise avec un trou, et je sais pas ce qu'on va faire de ta merde, tu vois. Et genre...
Mais ça, c'était valable au Moyen-Âge.
Mais ouais. Oui, voilà. Bah, j'ai pas envie d'aller au Moyen-Âge, tu vois.
Oui. Mais bon, je vais
le
te dire.
Le confort de vie est
moi,
pas
voilà, le confort de vie de la comté, il est pas si ouf que
mon,
ça.
Mon épouse est dans un trip depuis des années, bio, retour.
Toilette sèche,
etc. Donc, je vais te dire, moi, chier dans un baquet, ça m'est déjà arrivé.
Ouais, hein. Bah oui.
Donc, voilà. Okay. Moi, je vois juste le cadre bucolique. Grosso modo, c'est un week-end chez les hipsters. Hein. La comté est une ZAD. Okay. Je vois pas énormément de différence. Hein.
Même dans les fringues, hein, d'ailleurs.
Oui.
Moi, je te dis, le seul truc qui me gêne, c'est ce côté, on peut pas exclure la comté du fait qu'il y a un moment dans ce monde, il y a un truc qui s'appelle le Mordor avec des orques et ils existent. Tu vois.
Oui, mais dans l'histoire, on voit que le Mordor prend fin.
Et puis en plus, même regarde, mais enfin, si tu ramènes ça juste à notre univers à nous, la Terre, à un moment, tu te dis, ah, en Corée du Nord, il y a des mecs chelous qui peuvent tout faire péter, mais tu t'es pas en train de flipper pour autant non plus. Tu te dis, bon, ça va tenir quand même, je pense, au final.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais en vrai, plus j'ai réfléchi à ce sujet et plus je trouve
que ce sujet est nul.
Non.
Non, en fait, ce que je voulais faire, c'est quel est votre plat préféré. Et là, on rentre dans un vrai débat de fond.
Non, plus je me dis qu'en fait, notre monde, il est pas si mal, tu vois. En vrai, c'est ça que je me suis dit.
Ouais.
Tu vas choisir le meilleur univers de fiction, c'est la planète Terre.
Sauf
si on vit tous dans une simulation. Ce qui est aussi une théorie
qui marche. Ouais.
Donc non, pourquoi
parce,
pas
parce que jurisprudence, il y a quand même eu un épisode qu'on a fait avec notamment Patrick Beau et les Others, qui était le meilleur endroit à découvrir sur Terre. Donc on a chacun parlé d'endroits, notamment avec du coup Patrick Beau qui nous a enivré de ses histoires et de ses récits fantastiques. Et Cyrus au final a voté pour soi-même.
Ouais,
le meilleur endroit du monde, c'est soi-même.
Wow.
Donc c'est pour ça que je le vois venir
et
avant.
Et ça a gagné.
Mais alors ça, non, c'est le genre de truc que tu sors à genre il est 2h du matin, tu veux serrer,
on en était là,
etc. Voilà, oui. Je pense
le
que,
mood
ouais.
du podcast, oui, c'était à peu oui. près à ce moment-là.
Alcoolisé, ça passe.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a eu du cognac avant.
Donc vas-y, Cyrus.
Non, mais moi, je suis vraiment embêté parce que je comptais sur un peu vos suggestions pour me faire un choix.
Toi, tu voulais
choix,
qu'on te fasse le boulot, quoi, en fait.
Mais moi, j'ai vraiment galéré.
Mais du coup, t'en as pas, quoi.
Non, je l'ai pas. Là, tout de suite, je l'ai pas.
Non, mais là, tout de suite, est-ce que là, comme ça. En ayant dit tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il n'y en a pas un, par exemple,
mais
qui
non,
te fait
il va
dire...
nous faire le même genre de réponse.
Mais non, mais le moins pire dans ces cas-là.
Est-ce que tu veux que je te parle du mien avant, peut-être?
Bah oui, non, mais je pense qu'on va faire le tien. Mais j'avoue que pour l'instant, si on peut prendre cette comté.
Remarque, t'as dit la Terre au final, après analyse.
Non, mais c'est pas de la fiction, tu vois.
Eh ben, on n'en sait rien, mec. Ça peut se tenir comme discours.
Là, Tom, il va être vénère.
Non, mais on verra. Il y aura un vote final.
Mais en vrai,
dans tous les cas.
Pour l'instant, la comté. C'est vrai qu'en y repensant, il y a Fred qui a dit un truc très juste, c'est que le Mordor n'existe plus. Je sais pas à quel point il reste des orques. Mec, moi ça me fait trop flipper les orques. Moi j'ai pas du tout envie de tomber sur un orque, tu vois.
Non, ou alors, après ça c'est un autre truc. C'est-à-dire que tu peux choisir d'être un orque.
Ah, ou un Uruk-hai.
Moi par exemple dans le monde de Walking Dead, tu vois, je me suis déjà posé la question souvent. Je ne sais absolument pas le système de pensée des zombies. À chaque fois, on montre les survivantes et qui disent « Ah, faut pas qu'on se fasse bouffer !» Mais finalement, qu'est-ce qu'on en sait de la psychologie du zombie? Finalement, il se pose plus de questions sur
peut-être
comment il doit s'habiller.
Il est de droite.
Il bouge. Il est là, il avance. J'en sais rien.
Ah, peut-être que dans sa tête, c'est la fête. Hein.
Mais oui, on est en train de discriminer. Mais peut-être qu'eux, ils sont dans un truc. Mais pourquoi on se pose plus de questions? On n'est plus dans la grossophobie. On n'est plus dans le... Ah non, sois comme nous. Ouais. Regarde, on s'en fout.
Déjà, on n'a pas les bras qui tombent.
Voilà,
donc c'est une bonne nouvelle.
On s'en fout. Et vraiment, et je me dis, bah peut-être que c'est notre.
J'aime beaucoup cette réflexion.
Et on se dit, ça se trouve, les zombies, c'est peut-être le truc le plus égalitaire du monde.
Mais c'est sûr, et tu peux même le voir différemment. Tu peux très bien te dire, si t'as aucun principe, tu peux te dire, bah si t'es Negan, au final, ta vie, elle est plutôt sympathique.
Bah oui.
Exactement. Mais il faut vraiment oublier tout principe d'humanité.
D'humanité. Non, c'est voilà. Donc tu peux être un bad guy aussi, hein. Un vrai fils de chien.
C'est vrai.
Du coup,
Mary Poppins.
Mary Poppins.
Mary Poppins donc.
Chum Chuminé, est-ce que je vous en avais parlé? Non, moi du coup, Cyrus, ce que je te propose.
Ah, mais on va t'écouter, Tom.
Oui, bien sûr, mais ce que je te propose, c'est j'allais te vendre mon argumentaire.
Ah, vas-y, vas-y.
Le vendeur
vas-y,
de
propose,
voiture.
Vas-y.
Des deux, toi, tu veux un monde dans lequel il y a de l'aventure et de l'innocence.
Quelque part, ouais.
Je l'ai.
Allez!
Fred, tu veux un monde dans lequel il y a de la sérénité, du calme.
Oh putain,
et,
je sais ce qu'il y a à choisir.
De la sécurité.
Attends, je peux le dire à ta place?
Je l'ai aussi. Non, je veux finir mon effet de style.
Il y a de la liberté aussi dans le tien?
Oui, je l'ai, j'ai tout.
Super.
J'ai tout dans le mien.
Attends, est-ce que je peux le dire avant et tu vas couper au pire?
Non, non, tu le gardes.
Vous pouvez le dire en même temps à trois quand ce sera le moment.
Ça marche.
Putain, ça se trouve, je l'ai pas.
Super Nanny. Non, c'était pas ça. non, un univers dans lequel il y a du confort, dans lequel il y a de l'aventure, où on vit des aventures extraordinaires, où on partage avec ses amis. L'amitié, c'est important. J'ai choisi l'univers de...
Attends, non, attends, à trois, donc.
1, 2, 3,
les Simpsons.
Pokémon. Génial. L'univers
putain,
de Pokémon.
Putain, j'avoue. Mais j'avoue.
L'univers de Pokémon.
J'avoue.
Pourquoi?
Ça y est, c'est fait.
Parce que déjà, les,
bien sûr.
Les Pokémon, c'est cool en soi. On va pas refaire l'argumentaire de ce que c'est un Pokémon. C'est stylé. C'est pas agressif envers l'humain, sauf si on est vraiment très méchant avec, mais ça ne t'attaque pas. C'est un monde qui est assez bien foutu.
Tu connais Mew?
Équilibré. Mew est cool, Mewtwo est pas cool.
Mewtwo est pas,
mais
super,
Mewtwo
ouais.
est pas cool
ouais.
à cause de l'action des humains.
Ouais,
oui.
Il est créé par les
oui, humains. Oui, mais en même temps, l'action des humains, c'était. Voilà. Mais vas-y, développe. Mais parce que j'y ai pensé. Au...
Il va contre. Il y a des contre-argumentaires
ouais,
qui vont tomber à ma gauche.
Je vais reboire un coup avant de repartir dans cette bataille.
Non, mais t'es pas seul, Tom. Cette fois, je te rejoins.
Yes.
Rejoins.
Donc, Pokémon. Donc, les Pokémon sont quand même plutôt cool. L'univers de Pokémon est assez bien équilibré en termes de confort, de technologie.
Oui,
oui. C'est bien. Le seul danger qui peut exister potentiellement, c'est la Team Rocket. Et les autres teams équivalents qui ont été construits. Mais dans le jeu, un gamin de 10 ans les marave et fait tomber tous les lobbies de Team Rocket, etc. Il y a une forme de plein emploi finalement, où les gens qu'on croise, ça va être Benjamin Scout, Steve Pokémaniac. Il n'y a jamais eu Bruno Chômeur, par exemple. On sait que dans Pokémon,
ça, c'est
chacun,
du pragmatisme
voilà,
que j'aime.
Chacun a une fonction, un rôle préétabli. On peut partir avec ses potes à l'aventure, c'est pas dangereux. On parcourt un monde qui est assez varié. Il y a des cavernes, il y a du froid, il y a de la plage. On peut créer des relations avec ces Pokémon qui sont
et
beaux.
Tout ça à pied.
Ou à d'autres Pokémon, c'est pas polluant, c'est écologique. Mm-hmm. On peut être richissime, on peut gagner des milliers de Pokédollars à 10 ans, c'est un mouvement en marche, Pokémon. Non, je trouve que c'est voilà un univers qui est assez inoffensif au final, qui est peuplé d'aventures avec ce truc un peu insouciant, innocence, etc.
Pour les éditeurs qui n'ont pas l'image, à ma gauche, nous avons Frédéric Sigris qui bouillonne,
oui,
qui est prêt à attaquer.
Donc voilà, je dis Pokémon, je le pose sur la table. Voilà.
Alors, Frédéric Sigrist.
Et mon cher Tom Aguilar, votre démonstration est brillante comme toujours, et les auditeurs les plus naïfs sauront largement se contenter. Mais non, en fait, il y a un gros problème. C'est que, je vais te parler d'un truc. Tu sais qu'aux plus grosses heures de l'esclavage, les colons vivaient dans un système qui leur plaisait énormément. C'est-à-dire qu'ils avaient des esclaves qui travaillaient pour eux, qui s'occupait de tout, il n'y avait aucun souci. Le triangle d'or, personne ne l'avait remis en question. C'est-à-dire que les esclaves n'avaient pas d'âme, donc on pouvait les faire venir en bateau, etc. Disposer de leur vie comme on voulait. Or, et même Nintendo a commencé à se poser la question, le monde des Pokémon est uniquement basé sur l'exploitation.
La capture.
Et
c'est
la capture.
Faux, c'est faux.
Et le combat des... Attends, quand tu as Pikachu qui est par terre comme ça, et t'as Sacha qui le reprend, oh Pikachu, vite, faut l'emmener à l'infirmerie parce qu'il est... Et qu'il faut aller voir l'infirmière Joël. Ça veut quand même bien dire que cet animal, il a été envoyé au combat et alors qu'il n'avait pas forcément envie.
Monsieur
en
Sigrist,
plus,
j'ai beaucoup
Sigrist.
De contre-arguments.
Moi aussi,
j'ai beaucoup
aussi.
De contre-arguments, Monsieur
Pikachu
Sigrist.
Pikachu refuse, vanity de contre-arguments.
Refuse de rentrer dans la Pokéball. Pourquoi alors que les autres acceptent...
Justement.
Tu veux dire que Pikachu, c'est Conta Kinte?
Mais je pense.
C'est
je pense,
génial.
Je pense qu'on n'a pas encore vu. La révolte des Pokémon et révolte qui arrivera.
Tout, que Mewtwo essaye de lever.
Toute époque qui est construite sur l'exploitation d'une espèce et une espèce à qui tu prêtes des pensées et tout ça, moi je crois qu'il arrivera un moment donné où les Pokémon, ils vont dire non, ça suffit. Moi j'en ai marre d'être.
C'est fou maintenant que tu dis ça, je vois un parallèle avec la planète des singes. Mais oui. C'est la même chose, c'est des sortes d'animaux, et puis d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont des capacités.
Du tout.
Ils se rebellent.
Mais non, non.
Monsieur Sigrist, Sacha, vous êtes très mal tombé.
Le discours de Sacha, ça n'est pas possible de dire à chaque fois qu'il y a un match, de dire « Je me battrai jusqu'au bout ». Tu n'as rien fait, mais Sacha. Tu n'as rien fait. Tu ne t'es pas battu. Ton Pokémon s'est battu. Lui,
on a un petit problème, un problème d'eau. Ça va, c'est réglé ou pas?
Mais Pikachu, lui, il s'est pas battu.
Monsieur Sigrist, vous êtes très mal tombé.
J'ai créé Pokémon
en 82. Non mais Tom, tu l'as pas écrit avec moi celle-là, je crois. Mais j'ai fait une vidéo sur est-ce que les Pokémon sont des esclaves. Donc c'est une question qu'on s'est posée longtemps avec Tom. Et en fait, il y a l'esclavagisme et il y a la domestication. Les Pokémon, ils sont domestiqués. Pikachu, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Sigrist, il a refusé de rentrer dans sa Pokéball.
J'adore tout ce qui se passe.
C'est-à-dire que tous les Pokémon peuvent refuser de rentrer dans la Pokéball.
C'est avéré ça?
Pikachu y arrive, tu vois.
Ouais,
il y a des Pokémon qui restent sauvages.
Mais après, il rentre pas dans la Pokéball, mais quand même, il les suit.
Parce qu'il en a envie.
T'es sûr? On est sûr qu'il est pas conditionné à ça?
On est sûr. Non, mais ça, on est sûr.
Non, il s'est attaché à Sacha.
Le gang Carapuce.
Mais est-ce que vous voyez de Stockholm, c'est pas ça quelque part aussi?
Exactement.
Est-ce que vous voyez le gang Carapuce?
Oui, en fait, bien sûr. Pikachu, c'est Samuel L. Jackson dans Django.
C'est génial.
Le gang Carapuce.
C'est un des meilleurs moments de ma vie là.
Le gang Carapuce, donc c'est des carapuces qui décident d'être les pompiers de la ville et qui décident d'être indépendants des humains.
C'est les Black Panthers.
La décision des non mais ils sont
mais c'est fou. On est en train de faire des analogies philosophiques avec Pokémon. J'adore ce moment.
Et ils sont pas clashés par les humains, si tu veux. Genre c'est juste des Pokémon qui disent bah nous en fait on n'a pas envie d'être domestiqués. Nous on est indépendants et on va éteindre vos feux parce qu'on aime bien, tu vois. Mais il y a pas cette logique d'esclavagisme des Pokémon, tu vois.
Et en plus, juste pour préciser, j'ai pas dit qu'il fallait être dresseur dans un monde Pokémon. Tu peux choisir de vivre en harmonie avec les Pokémon dans le monde Pokémon et en plus de faire du militantisme si tu le souhaites pour arrêter les calculs de faire ce bal.
Voilà, là c'est bien.
Je veux vivre dans l'univers de Pokémon.
Okay. Mais pour moi, ils sont pas esclaves vraiment.
Moi, j'aurais un contre-argument une fois que vous aurez fini aussi par rapport à moins que vous ayez fini tout.
Je pense qu'on a fini.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire de la même manière que pour la Comté que ce qu'on voit dans l'univers de Pokémon, c'est juste une partie de l'univers? Et qu'ailleurs, il y a des trucs dégueulasses qui sont en train de se passer et que ça peut arriver à tout moment dans le monde de Pokémon. Sauf qu'on le voit jamais.
Quel genre de truc?
Mais pourquoi? À partir du moment où si tu le vois pas, ça existe pas. Ça, c'est, après, c'est reprendre le principe de si t'entends pas un arbre tomber dans la forêt, c'est que ça s'est pas passé. C'est très subjectif.
On allait très vite sur une accusation.
Bah non, mais c'est vrai. C'est à partir du moment où tu le vois pas, ça existe pas.
Quel type de menace, par exemple?
Je sais pas parce que je peux pas.
Sur tous les univers, tu vois. Les quand même,
mais non, parce que. Mais je suis tout à fait d'accord.
J'aimerais quand même qu'on réalise que seul en Occident, dans un pays riche, on peut passer une heure comme ça.
Mais c'est génial.
À partir aussi loin.
Mais
le but de ce podcast, un mec sur cette planète.
Tu te rends compte qu'on est
en train de se casser le cœur en se disant qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va boire. Et là, à l'autre bout du monde, t'as quatre connards
on
autour d'un micro qui disent non mais quand même, moi je pense que
au final, rapace des piques.
Après, on est tous conscients qu'on est des privilégiés. C'est pour ça qu'on a ce genre de conversation, qu'on fait des podcasts avec des micros et des biscuits des ouais. Sinon, on le ferait pas.
Franchement, j'espère que dans les générations futures, on ne retrouvera pas ce podcast. En 2019, il y avait toute la
seul vestige a été sauvé
et ils parlaient de ça
alors qu'ils auraient pu juste sauver la planète et bêtement d'ailleurs, mais bon ils l'ont pas fait.
On le fera après, on a d'abord un débat très important
pour clôturer ça.
Mais ça se tient. Mais je comprends le choix de Pokémon. Je comprends le choix de
ça
Pokémon.
Je vous propose de faire un petit vrai ou faux. Je vais vous donner des noms d'adaptations Star Wars. Vous allez me dire si cette adaptation existe ou non.
Adaptation Star Wars dans quel sens?
Parodie, okay. Déclinaison, adaptation.
Ok.
Est-ce que ça existe le film Spaceball, une version de Star Wars dans laquelle Jabba le Hutt est remplacé par Pizza le Hutt et où Yaourt remplace Yoda?
C'est un film de Mel Brooks, effectivement. Oui. Écrit par Moranis, entre autres.
Absolument, voilà, j'allais le dire. Qui a fait beaucoup d'entrées, hein, quand même, qui a bien marché. Mais 800 000 entrées en France.
C'est un très bon spoof, très rigolo.
L'histoire de l'espace.
Pizza Rico, pour les connaisseurs.
Est-ce que le film Star Wars existe? La version ch'ti de Star Wars dans laquelle Luke et Leia couchent enfin ensemble.
Ah, je pense qu'il doit y avoir un film de cul qui doit s'appeler.
Moi j'ai envie
ça.
De dire non,
non mais
quand
un
même.
Truc avec des boutons Star Wars. Il y a un sketch, ça existe un truc sur les boutons.
Donc là non, Star Wars, la version ch'ti de Star Wars n'existe pas. Ah, mais cependant, c'est le nom d'une convention qui existe en vrai dans le nord de la France.
Ah bah voilà.
Énorme.
Quand même sympa quoi.
Okay.
Est-ce que Thumbs War ça existe? Une version de Star Wars où tous les personnages sont remplacés par des pouces?
Oui.
Oui.
Ça ah existe, oui, du coup. Ça existe, ça existe totalement. Il y a plusieurs adaptations qui ont été faites, notamment Bad Thumb et Thumb Tanic aussi, qui existent également.
On aurait dû faire Thumb Raider.
Oui.
Oh là,
un nouveau scénariste dans la salle.
Allez.
Bah, on peut faire Tom Sawyer aussi. Hein,
allez, très
allez. Tom et Jerry.
Voilà.
Est-ce qu'il vient de mon prénom finalement?
Attention, j'ai de l'eau qui a été renversée sur la table, mais je peux très vite remplir mon verre et l'envoyer à un visage des gens.
Ah oui, c'est pas le jeu de mots, on avait dit. Est-ce que le film Star Wars, une version de Star Wars dans laquelle les personnages sont remplacés par des aliments de supermarché,
oui, ça existe.
Comme le personnage de Han Solo, par exemple, existe.
Ça existe. Oui.
Oui.
Ça existe aussi également. On a des experts sur le
sujet. Ouais, grave, ils sont chauds.
Il y a aussi Tofu des deux. Vraiment, je vous jure, les images, c'est juste
tofu
un bloc de tofu sur lequel ils ont mis les deux jambes
de
R2D2.
D'accord, ok.
Ouais. C'est,
pour R2D2, je l'avais pas.
Princesse Lettuce et Chou Brocoli.
Ok.
Qui sont vraiment dans le film. Et c'est un film qui a été créé par la Organized Trade Association. Il est destiné à promouvoir les aliments biologiques.
Très bien.
On est vraiment une génération 4
temps. Oui, oui, oui.
Est-ce que le film Scar Wars, un mash-up entre Scarface et Star Wars, dans lequel Obi-Wan Montana et Manny Skywalker vont devoir vendre de la coke à des Ewoks cubains, existe?
Non. Ah, j'ai envie de dire
non,
oui
c'est
à ça,
faux.
Moi.
Non, je ne pense pas.
Ça n'existe pas.
Ah, ah merde. Ah,
bravo,
faut le faire,
bravo,
faut le faire.
Bravo.
Est-ce que la déclinaison It's a Trap, la version de Family Guy de Star Wars, existe?
Oui.
Oui, oui.
Exactement, ils ont fait une trilogie dans la saison
oui,
9.
Avec l'amiral Akbar.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce que la Guéguerre des Étoiles, la version des Minicum de Star Wars,
oh
existe?
Ah oui, ça doit exister, ça.
Ah, je m'y connais pas assez en Minicum, là.
Ouais.
Ça existe aussi, ça dure 50 minutes.
La vache !
Sera dans la description.
Avec des marionnettes et tout ?
Ouais.
Non, 50 minutes de fiction, ils ont
ouais,
fait.
Ouais, ils en ont fait plein des fictions, du coup, je me suis replongé un peu dans les Minicum pour préparer cette émission. Ça ne m'a pas servi à grand chose, mais j'ai découvert.
C'est bien ou pas ?
C'est pas si mal fait, parce qu'en fait, même les doubleurs, c'est Gérald Dahan et Didier Gustin qui sont pas des mauvais doubleurs, et les animations de marionnettes sont pas si dégueu, et c'est pas si mal fait. Mais j'avais oublié.
C'est quand même beaucoup de c'est pas si.
Oui.
Que
non, mais
c'est
oui,
bien.
Forcément, ça a vieilli et tout, c'est de l'humour un peu potache, mais ça fait pas. Tu te dis pas, waouh, c'est trop cheap quoi. Il y a des trucs qui fonctionnent. À
d'accord.
Peu près. Récréation terminée, je vous propose de clore ce débat qu'on a ouvert précédemment et du coup de voter pour le meilleur univers de fiction dans lequel vivre.
Moi je vote blanc, hein. Moi je vote pas déjà de base, donc je vote blanc, hein. Je peux pas.
Tu peux
et,
pas...
Et je veux que ça soit comptabilisé, c'est tout.
Ce sera comptabilisé. Dedo, est-ce que tu veux rester sur l'univers Spielberg?
Oui.
L'univers Amblin?
Oui.
Ok. Fred, est-ce que tu restes sur la comté?
Bah oui, moi je reste à la. Je reste sur la comté.
Moi, je reste sur Pokémon également. Cyrus, c'est à toi que.
C'est vrai, c'est toi, c'est toi qui va décider.
Pencher la balance.
Alors attends, il y a deux petits trucs que je voulais dire avant.
Bien sûr.
Dans les, tu parlais de Amblin, etc. Et je t'avais posé la question de est-ce que du coup c'est vraiment un vrai univers.
Ouais.
J'ai posé cette question parce que dans Pixar, c'est un vrai univers en fait.
Les
oui,
théories,
il y a des théories,
il y a
des preuves. Il y a beaucoup de preuves quand même.
Des indices. Ouais. Preuves, c'est un grand mot.
Oui, mais bon, c'est
non,
des
non,
indices.
Si,
bon, pour moi, c'est des preuves.
Oui,
ouais,
c'est vrai,
moi,
y a, effectivement, il y a certains croisements. Ouais. Faudrait voir. Écoute, peut-être qu'en creusant un petit peu les films Amblin, on peut peut-être trouver certaines interconnexions dans les univers. Je sais pas. Là, pour le coup, j'ai pas d'argument.
Après, moi, Pixar, je peux manger avec toi hein, si on s'arrange au Pixar.
Non, c'est pas.
Ok,
non,
j'ai
non.
tenté.
Ah ouais, y a des alliances. C'est vraiment comme la politique,
ouais,
là, hein,
ouais,
du
ouais,
vote, des alliances de
non,
dernier
non, mais
moment.
On est sur leur terrain.
Ouais, en plus,
c'est
ouais.
comme dans X-Force, quand les Cerex, ils attiraient X-Force dans leur univers.
Ah oui, exact.
Ils étaient plus forts,
bah,
ils, ont fait pareil, ils ont fait pareil.
Et non, il y a un autre univers qui m'a. Un univers français en termes de fiction qui m'a fait rire.
Fort Boyard.
Non.
Joséphine Ange Gardien.
Parce que les PNJ.
Non, mais en fait, j'ai trouvé ça hyper.
Méga gaffe, hyper bien fait.
J'ai trouvé ça hyper malin de la part de Ken et Navo. Que, en fait, Bref, Bloqué et Serge le Mytho se passent dans le même univers. Et ça,
absolument.
Je trouve ça charmé.
Voilà, tu veux dire qu'ils ont fait un BCU.
Ouais, non, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment où, genre, t'as Kian qui croise Serge le Mytho.
Ouais, ouais.
Et genre, il fait du machin et tout. Et en fait.
Un Bref Connected Universe.
Ouais, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça cool.
Donc ça veut dire
ils sont contents de l'entendre.
Non, mais surtout, ça veut dire que t'es dans cet univers.
Je suis dans cet univers,
ouais.
Exactement.
C'est vrai.
Et que je suis un personnage de fiction
ouais.
là-dedans.
Ouais. C'est vrai.
Ouais, bah
ouais.
Oui.
C'est vrai.
Classe. Tu vois, je vous l'ai dit.
Tu peux changer,
réel,
c'est tu peux changer ton vote.
C'est quand le réel rejoint la réalité et que tout
toi.
Prend son sens.
Ouais. C'est vrai.
Non, moi je reste sur Amblin, moi, vous êtes fous.
Bref, c'est sympa, mais bon, pas non plus itty, quoi. Cyrus.
Non, mais moi en vrai, tu m'as convaincu avec Pokémon, gros. Parce que, genre, même si
Y a... Non, non, mais après, non. Si vous voulez exploiter les animaux,
même si
je juge pas, hein, c'est sûr qu'on changera pas le monde comme ça, mais
même si on peut envisager.
Non, puis c'est vrai que l'esclavage, il va aussi des côtés sympas.
Ah oui, voilà.
Dans Seigneur des Anneaux, putain, je suis pas calé en Seigneur des Anneaux.
Je reviendrai bien la semaine prochaine, mais vous invitez à la Soral, non, c'est ça, c'est
ça le principe. Non, même si c'est hyper recevable cet argument de l'exploitation animale et l'exploitation des Pokémon, le fait que dans le film Détective Pokémon, on montre une ville où il y a une cohabitation et qu'en gros on comprend que l'univers Pokémon va dans ce sens,
yes.
Et ben ça donne envie de signer quoi.
J'ai entendu des familles béquées en Martinique et en Guadeloupe tenir le même discours. Mais je vous assure, il y a des endroits où ces gens-là vivent heureux. Regardez, Marie-Thérèse, venez ici. Dites aux journalistes que vous êtes heureuse.
Oui, je suis heureux.
Voilà, elle a dit.
Je propose quand même, comme le veut la tradition, d'applaudir le choix victorieux de cette émission. Le meilleur univers de fiction dans lequel vivre est l'univers de Pokémon.
Ah non, parce qu'en plus, ils applaudissent.
Apparemment.
Ah ouais, mais on est arrivé à un niveau, mais...
On voit que Fred n'a pas applaudi.
Ils ont l'air d'aimer l'esclavage, donc je me soumets. Ah mais ils sont contents, hein.
C'est formidable. Alors, en plus, ils demandent d'être applaudis. C'est applaudissez-nous.
C'est un début de dictature, de toute façon. Voilà.
C'est Imperius Rex.
J'ai des crampes.
Dedo et Fred, merci beaucoup d'être
venus. De rien.
C'était un plaisir.
Je reviendrai.
Cette énergie dépensée pour rien.
N'hésitez
finalement.
Pas, quand vous avez besoin de quelqu'un, de vous mettre en valeur et tout ça.
Je suis content qu'on ait eu un débat pas loin de presque théologique autour de Pokémon. J'étais en me levant ce matin, je me disais pas que j'y allais.
En plus,
faire
t'as ça. Vu ce côté, mais sous la dramaturgie de ce truc, c'est alors Cyrus, j'ai pas d'univers de fiction.
Ouais, bien sûr.
Vraiment,
on les a bien eu, Cyrus.
Mais
tout est scripté.
Pokémon, mais bien sûr,
c'est
Pokémon,
super scripté.
Pourquoi j'y ai pas? Mais c'est incroyable.
Tu verras ce qui sera épatant pour les autres, mais pas pour nous, c'est quand ils vont se présenter tous les deux en politique, oui. Et qu'on fera « Mais bien sûr, c'était prévu. »
Ah non, mais le storytelling, c'est terrible.
Et bravo en tout cas, belle équipe.
Merci,
hein.
Merci.
Notre numéro est au point, Cyrus. Fred et Dedo, merci beaucoup d'être venus. Du coup, je me répète, mais partagez votre énergie, votre savoir.
Ouais, c'était un kiff. Vraiment, c'était une super émission.
Ouais,
j'ai kiffé.
Moi aussi.
Non, c'est un vrai plaisir.
J'ai niqué mon bracelet au tout début.
C'est vrai, mais ça valait le coup finalement.
Ah ouais, non, ça valait.
Je m'attendais pas à ce que les droits de l'homme soient complètement foulés à la fin de l'émission, mais la première partie était vraiment très bien. Fred... Après, voilà, l'humaniste que je suis est un peu choqué.
Ouais. Oh, on est assez hardcore, si on a des positions, t'as remarqué. Où est-ce qu'on peut t'écouter, te suivre et tout le reste?
Alors, la question, c'est ce podcast...
Ta promo, c'est ta promo. Ce podcast sort jeudi, là, dans 2 jours.
Alors, dans 2 jours, vous pouvez m'entendre tous les matins de 11h à midi sur France Inter dans Blockbuster, jusqu'à la fin du mois d'août.
Qu'est-ce que c'est que cette émission Blockbuster?
C'est une émission qui revient sur tous les grands blockbusters, c'est-à-dire du cinéma, des jeux vidéo, des séries, de la littérature et de la musique, et qui explique pourquoi ça a fonctionné et qui tente d'expliquer, de montrer aussi peut-être les choses qu'on ne sait pas forcément autour de ces grands succès. Et parce que souvent, quand les gens voient un truc qui cartonne, on se dit oh, « ça a marché parce que c'est bien vendu ». Eh ben non, c'est aussi parce que des fois, souvent, il y a du travail de qualité qui est fait derrière et on n'en parle pas assez. Donc, c'est qu'avec des passionnés, parce que je pars du principe que les passionnés sont souvent passionnants.
Beau pitch.
Ouais, beau pitch, franchement, beau pitch.
Donc, Blockbuster et d'autres endroits, t'avais commencé à citer, excuse-moi, Cyrus.
Vas-y.
Et ben ensuite, je reprends mon spectacle dès septembre. Je vais jouer à Saint-Malo pour un nouveau festival. Je vais jouer à Grenoble aussi, mon spectacle qui s'appelle Tout le monde croit que je suis un mec bien. Et c'est un spectacle où voilà, je parle de mes idées, puis finalement on se rend compte que je suis contre, je suis pour la souffrance animale, pour l'asservissement de l'humanité.
Tu pourras revenir dans cette émission.
Voilà, exactement.
La note édito. Parfait, parfait.
Et puis voilà, puis sinon je rejoins l'équipe de la bande originale sur France Inter avec Nagui, Guillermo Guiz, Marina Rollman. À partir de septembre. Et puis je serai aussi à France 3 dans l'émission de Wendy Bouchard, Boulevard de la Seine, qui sera diffusée tous les jeudis sur France 3.
Ce qu'on appelle une grosse actu finalement.
Ouais.
Tout ce qui s'appelle le besoin de manger.
Non, et ces émissions sont hyper quali quoi, par rapport à... Vous attendez pas à un truc un peu comme nous.
Voilà, ce sera quand même
c'est
plus.
C'est quali ici, c'est quali.
Attends, on est allé loin là. Hein.
Ouais. Non, mais. Non. Moi, ça m'a impressionné. Moi, ça m'a impressionné. Je trouve ça hyper propre, hyper clean, c'est... hyper pro. Bravo.
Franchement, ouais, mais
bravo.
C'est fait avec l'argent des Français, c'est avec les impôts. Tu sais, on fait pas n'importe quoi.
Ah, bah, c'est bien fait. Je suis content que ça aille là-dedans, franchement.
Tu veux pas proposer à Dedo de
bah
faire
non,
sa
non,
promo
c'est
par
la
exemple
Dedo, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Où est-ce qu'on te suit et tout?
Alors là, moi, j'attaque le rodage de mon troisième spectacle à partir de fin septembre, un peu partout en France. Là, les premières dates,
ce Fontaine
sera...
d'Argent.
Ouais, Fontaine d'Argent à Agen.
Aix-en-Provence.
Exact. Aix-en-Provence, pourquoi j'ai dit Agen? Donc ouais, ça
tu veux
ce sera
que je fasse ta promo?
Ouais, parce que moi je sais plus à force.
Voilà, et alors Dedo est actuellement aussi dans l'écriture de la suite de sa bande dessinée formidable. D'ailleurs, le premier tome est disponible, White Spirit.
Alors, c'est pas la suite, c'est un autre
oui,
one shot.
C'est un autre one shot. Mais vrai. Vraiment, vous pouvez déjà vous procurer le premier.
Le lien en description.
Voilà, il mérite.
Ouais, le lien.
Il mérite d'être lu. Y a évidemment la folle histoire, l'histoire racontée par les chaussettes.
C'est vrai.
Avec son comparse Yacine Bellous
qu'on reçoit très bientôt.
Ah enfin, cool.
Ouais.
On connaît le thème ou il faut pas le dire?
On
d'accord.
peut le dire
ou
pas
bah, au pire tu cutteras, tu choisiras.
Ouais, on
mais
peut le dire.
C'est le meilleur humoriste ou la meilleure humoriste.
Ah génial, je sais déjà qui il va dire. Donc ouais, il y a ça.
Sinon, il y a aussi évidemment Princesse Leia.
Oui,
continue.
Oui. On est effectivement aussi. Il est plus au courant que moi, c'est génial. Donc oui, un projet musical avec Antoine Chomsky, Xavier Goduel et Cléo Bigontina, qui a l'équilibre entre un vrai concert live. Je suis au chant, il y a un guitariste, donc Antoine Chomsky, un batteur, une bassiste. Mais on est à l'équilibre entre un vrai concert live, une sorte de pièce de théâtre et une comédie musicale. Donc il y a des moments pur concert, on joue des morceaux, et il y a des moments théâtralisés où on voit comment le groupe s'est rencontré, vers quel but ils veulent aller. Il y a des flashbacks, des flash-forward. Donc c'est une sorte de gros spectacle hybride où il se passe plein de choses.
Et le dernier clip est disponible.
Et le dernier clip est disponible, effectivement, qui est une parodie de la chanson Love Is All de Donald Glover. Non, oui. Roger Glover.
Non,
Roger... Donald Glover, c'est
Roger Glover.
Donald Glover, Love Is All, qui s'appelle Grâce à l'alcool. Ouais. Voilà, entre autres. On et donc voilà, ça c'est en tournée. Il y a une quinzaine de dates entre fin octobre et décembre un peu partout, et là on a une date prochainement aussi dans un festival. Et donc oui, le rodage qui sera à Lyon, à Caen, à plein d'endroits en fait. Vous pouvez aller sur
comment il s'appelle le troisième spectacle
s'appelle pour l'instant c'est en rodage, il y a pas de titre, il y a à peine de quoi en parler.
Okay.
non je suis en train de construire tout ça, de tester un peu le matériel, et donc là en tout cas les premières versions ça sera effectivement à la fontaine d'Argent Aix et à plein d'autres endroits en France. Non, rien
si
à
vous allez à Agen,
ça ce sera c'est sûr. Si vous allez sur mon Twitter ou mon Facebook, je communique régulièrement sur ce genre de date là.
Fabienne et Jacques, hein. Il faut demander Fabienne et
Fabienne
Jacques,
et Jacques. Voilà.
Jacques
eux,
fait à manger,
eux sont au courant de tout.
Et Fabienne c'est la gérante de
je crois que c'était une meuf qui s'appelait Fabienne et son famille c'était Jacques.
Ouais, moi aussi
et je crois que c'était une
sorte de cousin de Jacques et Michel.
À la Fontaine il y a aussi Alice et Lucie,
toujours des couples
qui travaillent également.
Très bien, des petits couples intéressants,
on les salue.
Bah en tout cas, merci d'être venu avec ton agent Dedo qui nous a permis de.
Ah bah écoutez, il traînait dans la Rolls, donc je lui ai dit viens
problème.
Prendre un peu la clim.
Hein.
C'est quand même
bon, sympa.
Plus sympa.
Cyrus, nous on se retrouve où?
Bah
et
nous
quand
on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du meilleur podcast, ici même.
Sur 88.7.
et voilà, je pense que c'est à peu près tout.
Ouais. Pas de pause estivale, pas de pause de vacances. On va essayer de continuer à garder un épisode toutes les deux semaines.
J'avoue, moi j'étais chaud pour une pause. Tom il a fait non, vas-y.
Ah, on a dit qu'on a fêté notre anniversaire ou pas? On l'a dit ici?
Je l'ai dit au tout début.
Vos 8 ans de Facebook?
Non, les 1 an du podcast.
Ouais, le meilleur podcast à 1 an.
Ouais.
Voilà, on est ravis.
On l'a fêté sur Instagram.
On l'a fêté sur Instagram.
C'est pour ça que c'est important de nous suivre sur Instagram aussi.
Voilà, c'est un grand plaisir pour ceux qui nous suivent depuis le début et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. C'est un gros kiff.
Merci d'être là,
merci
pour vos messages.
Merci de parler du podcast autour de vous. Merci
pour les 5 étoiles sur iTunes.
Ouais, tout fait plaisir. Voilà, on est hyper content de cette émission et ça nous fait kiffer chaque 15 jours de venir faire un nouvel épisode.
C'est un vrai kiff.
On se quitte en chanson comme d'habitude. 3, 4.
Simply the best. Down, 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 down.